Volume 4, les œuvres de George Fox, livre Doctrinoi. Suite à tous ceux qui professent le christianisme, les points particuliers suivants concernant leur nom de chrétien, l'amour des ennemis, le culte en esprit, la communion de l'évangile, leurs nombreuses têtes et leurs baptêmes, leurs nombreuses églises, leurs divergences sur l'interprétation des Écritures. Par George Fox ami, vous avez porté le nom de chrétien, non venu par tradition et succession, et ainsi conservé depuis les jours des apôtres, mais de la vie de la puissance, de l'amour et de la sagesse qui étaient parmi les apôtres et ceux qui étaient dans la sagesse du Christ, vous avez été pour la plupart exclus vous rois, princes, gouvernants, docteurs et peuples, grands et petits, et Dieu n'est servi que dans la vie et la puissance de Dieu. Or vous, chrétiens, qui avez ce nom comme venant du Christ, mais que l'on trouve dans l'ancienne vie les uns avec les autres, et dans celle-ci les uns contre les autres, vous êtes dans l'apostasie et la dégénérescence d'avec la vie et la puissance où étaient les apôtres, au temps primitif. C'est pourquoi vous, qui êtes appelés chrétiens, vous vous êtes divisés en tant de sectes et d'amas, en tant de têtes et de noms, chacun haïssant l'autre. Cela est arrivé parce que vous êtes tous hors de la puissance et de la vie du Christ et de sa sagesse, où étaient les apôtres, sagesse douce, pure, pacifique. Or vous, rois, princes, gouvernants, docteurs et peuples appelés chrétiens, vous n'êtes pas pacifiques les uns envers les autres, et ainsi vous n'êtes pas dans la sagesse d'en haut, vous n'êtes pas doux, vous n'êtes pas disposés à vous laisser fléchir, et par conséquent vous êtes dans la sagesse d'en bas, dis-je, de celle qui vient d'en haut. Examinez donc vous-même et votre condition, car la sagesse pure d'en haut est douce et facile à fléchir. Or si tous les rois, princes, gouvernants, docteurs et peuples, grands et petits, étaient dans cet état, il n'y aurait point de créelle, ils porteraient l'enseigne de leur maître, le Christ, et ce dans quoi étaient les apôtres, et il n'y aurait point de lutte dans toute la famille de la chrétienté, car la lutte est hors de l'état pacifique et doux. Examinez donc votre personne, votre état et votre sagesse, au regard de la sagesse des apôtres où ils étaient, et voyez quelle dégénérescence et quelle apostasie il y a, et il y a eu, par rapport à cet état de l'Église primitive. Le Christ a dit, « Aimez vos ennemis, et encore, aimez-vous les uns les autres, et c'est la marque par laquelle l'on vous reconnaît pour ses disciples, que toute la chrétienté se considère donc elle-même, et regarde parmi elles, et voit comment ils se sont aimés les uns les autres, et s'aiment les uns les autres, et comment ils ont montré la marque des disciples. Car s'ils s'étaient aimés les uns les autres, ils ne se seraient pas fait de tort ni ne se seraient haïs, ni ne seraient allés à la guerre les uns contre les autres, ce dont la cause est venue de leur convoitise, eux qui ont professé le nom de Jésus, mais ont foulé son commandement aux pieds, ce commandement d'aimer les uns les autres, et ainsi haine, convoitise, guerre, crêle et dispute dominent. Vous pouvez donc voir par là qu'il y a eu dégénérescence et apostasie, dans la vie et la pratique, par rapport au commandement du Christ, et que son nom en a été déshonoré. Or s'aimer les uns les autres, ce n'est pas se faire la guerre, et aimer les ennemis, qui est son commandement, c'est donc ne pas leur faire la guerre, ni disputer, ni combattre. Prenez donc garde et souvenez-vous, vous qui avez professé le nom de Jésus, combien vous êtes trouvés hors de cette vie et de ce commandement du Christ, et dans la dégénérescence et l'apostasie qui s'en est écartée, et ainsi séparés des apôtres qui y étaient. Et c'est la cause pour laquelle vous êtes en amas entre vous, et avez tant d'ennemis au dehors, car l'amour fait des amis et triomphe tant parmi vous qu'au dehors. Si vous étiez dans le culte de Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans ce dont le diable est exclu, alors vous seriez tous dans l'unité, car l'unité est dans la vérité, qui était avant que l'inimitié n'existât. Or depuis ce culte en esprit et en vérité, que le Christ a établi parmi les apôtres, il y a eu dégénérescence dans la chrétienté et apostasie. Car s'ils y avaient tous été, c'est-à-dire dans l'esprit et dans la vérité, ils auraient été dans ce dont le diable est exclu, lui qui est l'auteur de l'inimitié, et dans l'unique culte stable, qui est au-dessus du culte du diable, et du culte rendu aux anges et du culte volontaire. Et c'est dans l'esprit qu'est la communion avec Dieu et les uns avec les autres et avec l'Écriture quant à l'état. Si vous aviez tous été dans la communion de l'Évangile, c'est-à-dire ce que l'on appelle la chrétienté, cet Évangile qui est la puissance de Dieu qui était avant la puissance des ténèbres, dans laquelle puissance de Dieu est la communion éternelle, qui est la communion de l'Église qui était parmi les apôtres, dont il y a eu dégénérescence et apostasie, loin de l'Évangile la puissance de Dieu qui domine la puissance des ténèbres, laquelle a obscurci pour eux la vie et l'immortalité, et dans cette puissance de Dieu, l'Évangile. Les hommes, étant sortis de la puissance de Dieu, et ayant dégénéré et apostasié loin d'elle, sont entrés dans tant de communion, et non dans l'unité mais les uns contre les autres, car l'unité et la communion sont dans l'Évangile, la puissance de Dieu, comme je l'ai dit auparavant avant que l'inimitié n'existât, et dans lequel aucune inimitié ne peut entrer. Et c'est là la communion stable et éternelle de l'Église de Dieu. La chrétienté, s'étant morcelée en tant de têtes et tant de baptêmes, vient de ce qu'ils sont hors de la puissance et de l'esprit, de la lumière et de la vie de Jésus, où étaient les apôtres, et qu'ils ont dégénéré et apostasié loin de là, et loin du Christ, l'unique tête et l'unique voix, ils sont allés dans tant de voix, et ainsi en général, s'étant égarés du souffle et de la puissance de Dieu en eux-mêmes, esprit qui devrait baptiser dans l'unique corps et ainsi conduire à l'unique tête le Christ, et engloutir toutes les corruptions. L'état de la chrétienté, en général, s'est transformé en de nombreuses églises ainsi nommées, chaque église injuriant l'autre, se faisant la guerre, se crêlant et se battant les unes contre les autres, se haïssant, s'entretuant, se persécutant et s'emprisonnant. Tel est l'état qui a apostasié et dégénéré d'avec les apôtres du temps primitif, et d'avec la doctrine du Christ, lui qui a dit « Laissez croître ensemble l'ivraie et le blé », et qui ne combat donc pas contre le monde, car l'église est faite du blé, mais l'état de toute la chrétienté en amas église contre église, et tant de gens en est luttant les uns contre les autres, vient de ce qu'ils ne sont pas dans la vie de Jésus-Christ, ni dans sa puissance et sa sagesse, ni dans son commandement qui est l'amour, commandement qu'il a donné. Ainsi, si les pieds des chrétiens étaient sales et impurs à la vue les uns des autres, ils devraient les laver, non les emprisonner ni les tuer, car le Christ a dit « Il n'est pas venu pour détruire les vies des hommes, mais pour les sauver ». Quand ses disciples auraient voulu que le feu descendît du ciel pour consumer ceux qui leur étaient contraires, comme l'avait fait le prophète, le Christ a réprimandé cet esprit et leur a dit « Vous ne savez de quel esprit vous êtes ». Or, de quel esprit la chrétienté a-t-elle été, elle qui s'est entretuée et persécutée au sujet de la religion, de l'Église et du culte? Ont-ils su de quel esprit ils étaient, et cela a manifesté que c'est la naissance selon la chair, et non la naissance selon l'esprit, apostasiés, et ayant ainsi perdu le fruit de l'esprit, qui est amour, douceur, paix, etc. Mais l'Église est en Dieu, 1 Thessaloniciens 1:1. Or Adam et Ève furent chassés du jardin du paradis de Dieu à cause de la transgression, et ainsi les fils d'Adam et les filles d'Adam, dans la chute, hors de l'image, de la justice et de la sainteté de Dieu, où étaient leur père Adam et leur mère Ève avant de tomber. Or cet état dans la chute est l'état de nombreuses églises, mais ceux qui viennent à l'église en Dieu doivent sortir de cet état où Adam et Ève et leurs fils et leurs filles étaient et sont dans la chute, pour remonter dans l'état où ils étaient avant de tomber, et ainsi être renouvelés de nouveau dans l'image de Dieu, qui dans la chute est perdue, et dans sa justice par Jésus-Christ, qui est la voie vers Dieu, et la tête de l'église qui est en Dieu. Ainsi tous les fils et les filles d'Adam dispersés sur toute la face de la terre, de quelque secte ou culte qu'ils soient, dans la chute, dans l'état où leur père Adam et Ève étaient dans la chute, ils doivent être amenés à connaître l'état où ils étaient avant de tomber, s'ils viennent à l'Église qui est en Dieu le Père du Christ, qui en est la tête, et il y a davantage en cela. C'est cet état qui fait que toute la chrétienté est en amas au sujet des Écritures et de leur interprétation, les docteurs et le peuple, et aussi au sujet de l'entretien de leurs ministres, et qu'ils sont tombés dans tant d'idolâtrie, d'invention et de tradition à eux, et qu'ils contraignent les gens à cela, comme viande, boisson, jour, images et choses extérieures, parce qu'ils l'ont apostasié et dégénéré d'avec la vie où étaient les apôtres et l'esprit des temps primitifs, et qu'ainsi, n'étant pas dans la vie des prophètes ni dans l'esprit du Christ dans les... Ainsi les hommes et le peuple, grands et petits, et les docteurs, ne sont pas dans le même esprit que les prophètes, le Christ et les apôtres, qui les conduisit à prononcer les Écritures. Dans cet esprit, les prophètes, le Christ et les apôtres avaient l'unité et étaient d'accord. La chrétienté, en général, n'étant pas dans cet esprit, ils sont tous en amas au sujet des Écritures et de leur interprétation privée, et c'est pourquoi ils publient de si grands livres les uns contre les autres. Or, s'ils étaient dans l'esprit qui a donné les Écritures, cela aurait été leur lien de paix, et en lui, ils auraient tous eu communion et unité avec Dieu de qui ils ont appris, et avec les Écritures, et les uns avec les autres, car dans l'esprit qui les a donnés est la communion permanente, et c'est par lui que les Écritures sont vues, ouvertes et interprétées. Les hommes, depuis les jours des apôtres, n'étant pas dans l'esprit qui a donné les Écritures, ont dit que les langues étaient l'original, dont le commencement fut Babel, et ces langues ont fait diviser ceux qui ont dégénéré d'avec les apôtres, lesquels ont dit « Les langues cesseront » et Jean dans l'Apocalypse a dit « Ils doivent être rachetés des langues », et Pilate a placé les langues au-dessus du Christ quand il l'a crucifié. Ainsi on exalte cela, dont les hommes doivent être rachetés, et qui doit cesser, dont l'origine est Babel, et qui a été mis au-dessus du Christ, on l'exalte parmi ceux qui ont apostasié d'avec les apôtres, comme étant l'original, et comme devant faire des docteurs, alors qu'ils sont hors de l'esprit, de la vie et de la puissance où étaient les prophètes, le Christ et les apôtres. Car la vie, l'esprit et la puissance où étaient les prophètes, le Christ et les apôtres, amènent les gens à connaître les Écritures données par le même esprit, et le Dieu de qui elles ont été apprises, et à voir la cessation des langues, et le commencement des langues à Babel, et à voir le commencement avant la chute. C'est cet esprit, cette puissance et cette parole de Dieu qui a fait des théologiens, et qui fait des théologiens, et en qui l'original est connu. Cela montre comment la chrétienté a apostasié d'avec la doctrine, la vie et la pratique des apôtres, et si les gens veulent en sortir, ils doivent venir à la lumière, et sentir et voir la vie de Jésus, ainsi que sa puissance et son esprit dans leur propre cas particulier, par quoi ils peuvent voir la lumière, la vie et la puissance où étaient les apôtres avant l'apostasie, où est l'unité. Il y a une seule foi qui justifie et purifie le cœur, c'est le don de Dieu, qui donne la victoire sur tout ce qui a séparé l'homme de Dieu. Par cette foi, l'homme a de nouveau accès à Dieu, et dans cette foi il plaît à Dieu, et dans cette foi est l'unité de l'Église et des saints qui est en Dieu, et c'est la véritable foi de l'Église, dont la plupart de la chrétienté a apostasié et dégénéré depuis les jours des apôtres, je dis, de cette foi qui agit par l'amour, qui était parmi les apôtres, mais les apostats et ceux qui ont dégénéré sont. La lumière du Christ, le seul antidote pour surmonter et expulser le poison des plus grandes tentations de Satan. Par George Fox, la cause du désespoir est d'être hors de la lumière, car Caïn, lorsqu'il désespéra, s'éloigna de la lumière et tua le juste, Gênesis 4:8. Celui qui tua le juste au-dedans, tua le juste au-dehors, et Ésaü, qui méprisa son droit d'aînesse, homme profane, chercha à tuer le juste, et celui qui s'éleva contre le bien-aimé de Dieu, Matthieu 27:5. David, lui, désespéra, il vit le méchant s'élever contre le juste, et les Juifs désespérèrent et doutèrent, ils ne crurent pas à la lumière. Ils étaient contre le juste, tout en professant toutes les Écritures, et Judas, qui désespéra, se détourna du Christ, la lumière, pour aller vers les prêtres changeants. Ainsi la cause du désespoir est de s'éloigner de la lumière, car ce qui conduit à présumer conduira au désespoir, lequel s'élève dans cette nature qui agit contrairement à la lumière, et c'est elle qui erre çà et là, de haut en bas, chasse au dehors et bâtit ce que Dieu confond. « Je suis la lumière du monde, et j'éclaire tout homme venant dans le monde, dit le Christ, lui par qui le monde a été fait. Or chacun étant éclairé par la lumière qui vient de celui qui n'est pas du monde, celui qui fut tenté dans le monde de se détruire lui-même, celui qui fut tenté de convoiter les créatures, celui qui fut tenté d'adorer le diable, qui est hors de la vérité, mais qui triompha de tout, Luc 4, 9-14, John 16-33. Or chacun de vous qui vient dans le monde, ayant une lumière de celui qui n'est pas de ce monde, et qui fut ainsi tenté, et qui n'entra pas en tentation. Ce n'est pas un péché d'être tenté, car lui-même fut tenté, mais d'entrer dans la tentation. Ainsi, si vous voyez les tentations par la lumière qui vient du Christ, la lumière, la vérité et la vie, regardez à celui qui fut tenté, qui vainquit les tentations qui n'étaient pas du monde, ayant une lumière de lui dont le nom est appelé la parole de Dieu, lui qui a dit. Car ayant une lumière de la parole par laquelle toutes choses furent faites, et gardant la parole, on reçoit la puissance contre toutes les tentations, et elles ne s'approcheront pas. Êtes-vous tenté de vous détruire? Le Christ l'a été aussi. Hébreux 4:15. Ne regardez pas aux tentations mais regardez au Christ, et là vous recevrez la puissance. Êtes-vous tenté par les créatures? Le diable, celui qui est hors de la vérité, qui est un destructeur, vous tente-t-il par les créatures? Le Christ l'a été aussi, lui par qui toutes choses furent faites. Êtes-vous tenté d'adorer le diable? Luc 4:3-7. Si le diable, qui est hors de la vérité, vous tente de l'adorer, regardez au Christ qui fut tenté et qui vainquit. Regardez à celui qui a vaincu, il est le chef de notre salut, Hébreux 2:10. Ainsi chacun ayant une lumière du Christ Jésus, qui lui est donnée pour veiller, prier, chercher et frapper après le Christ, qui est la porte, la voie, la vie, l'alliance de paix. Ne regardez donc pas aux tentations, mais gardez vos regards sur le Christ, et ne vous en troublez point, mais regardez à celui d'où vient votre force, qui vous les fait voir, et là tenez-vous immobile, car c'est là que se reçoivent le salut et votre force. Avez-vous fait une alliance avec la mort en agissant contrairement à la lumière dans vos consciences? Avez-vous fait des alliances avec l'enfer, la tombe et Satan? Tout cela étant hors de la lumière et hors de la vérité, car le diable est hors de la vérité, et il est le destructeur et le dévoreur. Si, en vous tournant vers la lumière qui vient du Christ, l'alliance de Dieu, l'alliance de lumière de Dieu, et en y attendant, l'alliance de mort est brisée, et croyez en elle car c'est là que se reçoit la miséricorde de Dieu, contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir, qu'elle ouvre la bouche aussi largement qu'elle veut. Et toutes les entraves de l'iniquité, les promesses que vous avez faites avec l'esprit charnel et les convoitises en vous tournant vers la lumière, l'alliance de vie brise toutes les entraves et promesses de l'esprit charnel. Ainsi, avec patience, attendez dans la lumière qui vient du Christ, l'alliance de paix, afin de recevoir la paix avec Dieu. Ne regardez jamais aux tentations, mais regardez seulement la lumière qui vous les montre, et là tenez-vous immobile pour recevoir la puissance de celui de qui toute puissance est reçue. Ce qui est hors de la vérité vous tente de vous retirer de la lumière et de la vérité, et d'en sortir. Ainsi chacun, ayant la lumière du Christ, qui n'est pas du monde mais qui est venu dans le monde, vous fera voir les tentations. Ceux qui gardent la parole ne seront pas vaincus, mais ils recevront la puissance de fouler tout aux pieds. Le culte en esprit et en vérité sera connu, et la sagesse par laquelle toutes les créatures ont été créées sera reçue, afin de les utiliser à la gloire de Dieu, pourquoi elles furent créées. Ce qui est hors de la vérité tend au meurtre, car le meurtrier est hors de la vérité et hors de la lumière, par la lumière il sera vu, jugé et condamné. Celui qui auparavant s'était élevé et exalté sera amené au désespoir, mais en apprenant du Christ, la lumière, qui est douce et humble, celui qui est hors de la lumière est tenu dehors et abaissé. Mais avant cela, le diable tentera par les créatures, pour engager votre esprit dans les créatures, lui qui est hors de la lumière et hors de la vie, et ainsi il en est le dévoreur, et hors de la sagesse par laquelle elles furent créées. Ainsi, comme je l'ai dit auparavant, attendez dans la lumière qui vient du Christ, la vie, afin qu'avec elle vous veniez à recevoir du rafraîchissement de la part du Seigneur, et à connaître la sagesse de la création, par laquelle elle doit être utilisée à la gloire du Créateur. Ainsi, ayant une lumière de celui par qui le monde a été fait, à qui toute puissance dans le ciel et sur la terre est donnée, attendez dans la lumière afin de recevoir de lui la puissance, qui fait sortir des convoitises et souillures du monde. La lumière qui vient de lui vous montrera toutes les tentations liées aux créatures, ou la tentation d'obéir à la volonté de celui qui est hors de la vérité, mais en attendant dans la lumière, vous viendrez à connaître le bon usage des créatures. Attendez donc la puissance du Seigneur dans la lumière, qui vous montre toutes les tentations, lumière qui vient du Seigneur, vous donnant puissance de tenir contre toutes les tentations, afin que tout ce qui est contraire à elle soit condamné par la lumière, et ainsi vous pourrez parvenir à témoigner du levain qui fait lever la nouvelle pâte, et à voir celui qui intercède, qui peut sauver jusqu'au bout, et ainsi par la lumière, vous pourrez voir qu'il n'y a pas de tentation qui vous ait saisie qui ne soit commune à l'homme. Ainsi, si vous prêtez attention à la lumière et y demeurez ferme, vous verrez le Seigneur donner une issue, par laquelle vous trouverez la délivrance en demeurant dans la lumière, qui vient de la parole, qui est un feu, un marteau, une épée, qui abat ce qui est contraire à la vérité, qui divise et consume. Mais en gardant la parole, les tentations ne s'approcheront pas, et la parole de réconciliation sera attestée, et la parole de foi qui rend pure, purifie et sanctifie, là où l'ancien vêtement est ôté, ou la connaissance dans la chair. George Fox, une règle de mesure concernant la liberté et la persécution, et qui ont été les persécuteurs, et qui ont été les souffrants depuis le commencement. Par George Fox, les chrétiens devraient s'aimer les uns les autres, c'est le commandement du Christ, et c'est une marque par laquelle on les reconnaît pour ses disciples. Deuxièmement, ils devraient aimer leurs propres ennemis, et par cela ils se distinguent des Juifs et des païens, et de tous les autres peuples. Or, quant à l'acte récent concernant le peuple Dieu appelé Quakers, aucune peine n'est infligée à quiconque pour ne pas dissoudre leur réunion, ou pour ne pas leur imposer le serment. Il mettra donc à l'épreuve et manifestera de quel esprit les hommes sont, et ce qui est dans les gens sera désormais rendu manifeste parce que l'acte est laissé à l'exécutant, sans aucune peine, acte qui, s'il avait existé au jour des apôtres, aurait atteint le Christ et ses apôtres, car il en avait 12 qui souvent se réunissaient, et par cet acte il ne... Ainsi je dis, si cela avait existé au jour du Christ, cela se serait appliqué à lui et à ses disciples. Pensez-vous que le Christ et ses disciples, la sagesse de Dieu, auraient obéi à cet acte et ne se seraient pas réunis avec ses disciples? Ou si les Juifs avaient fait des lois pour le limiter à 4, pensez-vous que le Christ, la sagesse de Dieu, y aurait obéi, ou ses disciples? Le Christ dit aussi à ses disciples qu'ils devaient attendre ensemble à Jérusalem et ne pas s'en aller, et ils se réunirent, et vous savez que leurs réunions étaient différentes de celles des Juifs et des païens. Ils devaient attendre ensemble à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut, avant d'aller rassembler les églises, et cela était selon la sagesse de Dieu. Si les Juifs leur avaient dit de ne pas se réunir, pensez-vous que les disciples leur auraient obéi, ou qu'ils auraient obéi au commandement du Christ? Lorsque les apôtres eurent rassemblé des églises hors des Juifs et des païens, ils les établirent, ils leur écrivirent leurs épîtres et s'édifièrent les uns les autres dans la sainte foi, et ne pas abandonner le fait de s'assembler ensemble. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, alors considérez ce qui est à attendre. Remarquez donc, si les Juifs ou les païens, parmi lesquels les Hébreux, les Galates, les Colossiens, les Thessaloniciens et les Corinthiens furent rassemblés en plusieurs églises, si les païens. Considérez donc ces choses, et faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fît, c'est la loi et les prophètes. Beaucoup n'ont-ils pas souffert, lors des 10 persécutions, pour s'être réunis ensemble, avant qu'il y eût un pape? Beaucoup n'ont-ils pas souffert depuis, de la part des papistes, pour s'être réunis ensemble? Voyez le livre des martyrs, comment ils souffrirent par les papistes, qui les appelaient conventicules, assemblées séditieuses, tumultueuses de personnes, et aussi au temps des souffrances des martyrs durant les 10 persécutions. Et après les 10 persécutions, n'ont-ils pas fait des lois pour leur interdire de se réunir? Ne les ont-ils pas appelés conventicules? Et pourtant ne se réunissaient-ils pas dans des granges ou des maisons, dans les bois et les champs, comme vous pouvez le lire dans le livre des martyrs? Ces martyrs furent-ils désobéissants, durant les 10 persécutions et ensuite, face aux papistes, alors que tant de milliers souffrirent pour s'être réunis, pour n'avoir pas payé la dîme, pour n'avoir pas juré, et pour n'avoir pas cédé à leurs principes et pratiques, eux qui les persécutaient, était-ce mal chez ceux qui les persécutaient? Est-ce bien maintenant que vous nous faites souffrir pour les mêmes choses, ainsi les martyrs, les persécuteurs, et vous, vous ne faites qu'un, ou bien les martyrs et nous ne faisons qu'un, nous qui avons souffert tout du long, n'ont-ils pas la nature des païens qui fait souffrir, et non la nature des apôtres? De même, beaucoup n'ont-ils pas souffert ici, comme nous maintenant, pour s'être réunis ensemble, et pour ne pas jurer en ces jours-ci? Considérez, au jour d'Olivet, plus de 3000 ont souffert l'emprisonnement, et certains jusqu'à la mort pour n'avoir pas juré, et par motif de conscience comme beaucoup des martyrs au temps des 10 persécutions, et par les papistes comme nous le faisons maintenant. Considérez donc ces choses, car c'est le commandement du Christ que nous obéissons, et la doctrine des apôtres qui dit « ne jurez point du tout ». Considérez maintenant, ceux des dix persécutions, et les papistes n'auraient-ils pas puni le Christ pour avoir prêché cette doctrine et l'auraient fait souffrir, comme nous qui la reconnaissons, lui qui a dit « Ne jurez point du tout, mais que votre oui soit oui, et votre non, non. » Et les apôtres pour l'avoir proclamé, car nous ne faisons pas ces choses par mépris ou rébellion envers que ce soit, car notre amour et notre sollicitude sont que tous les magistrats et tous les peuples vivent dans la crainte de Dieu et reçoivent sa sagesse par laquelle toutes choses ont été faites et créées, afin qu'ils soient ainsi ordonnés à la gloire de Dieu, et qu'ils administrent ce que Dieu leur a donné sous leurs mains, à son honneur, afin qu'ils soient une bénédiction de Dieu dans leur génération. Et considérez, Daniel et les trois enfants se réunirent et désobéirent au commandement du roi, et Mardochée, qui ne voulait pas se courber, désobéit au commandement du roi, et les sages-femmes désobéirent au commandement de Pharaon en ne faisant pas mourir les enfants, et la femme qui avait sept fils souffrit par la loi du roi parce qu'il ne voulait pas manger de chair de porc, et l'un de ses fils dit à sa mère, « Je n'obéirai pas au commandement du roi, j'obéirai à la loi de Moïse, que nos pères ont observée. » Et Daniel désobéit au commandement de Darius, qui était que Daniel ne devait pas prier, et il pria, et n'obéit pas à son commandement. Les apôtres désobéirent au commandement du grand prêtre et du conseil, lorsqu'on leur enjoignit de ne plus parler en ce nom-là. Pourtant, en ce qui est bon, juste et droit, les justes ont toujours été, et sont toujours soumis à toute ordonnance humaine à cause du Seigneur, à celles qui sont pour punir les malfaiteurs et pour louer ceux qui font le bien, afin qu'ils mènent une vie pieuse et paisible, remarquez une vie paisible, car c'est pour cela qu'ils prièrent et payèrent le tribut, non pour qu'on les conduisît à une vie impie et sans paix, car c'est à cette fin que les autorités supérieures ont été établies sur les impies, qui allaient dans une vie impie et sans paix, car les impies non. Ainsi ceux qui sont dans une autorité supérieure doivent distinguer le précieux du vil, faute de quoi, le prophète s'écria souvent contre eux. Lorsqu'ils se tournèrent contre les justes, paisibles et pieux, alors on connaît la parole que l'Écriture dit. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu, les principautés, ou les puissances, ou les trônes, ou les dominations ? Montrant qu'il y a des principautés et des puissances qui voudraient séparer de l'amour de Dieu qu'ils avaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire d'une vie pieuse et paisible. Il y a donc une distinction, être soumis à ce qui punit le mal, et souffrir de ce qui voudrait séparer de l'amour de Dieu. Or ceux qui voudraient séparer retournent l'épée contre les justes, et les persécuteurs ont toujours été aveugles et n'ont jamais pu voir, mais ils se jettent sur leurs amis au lieu de leurs ennemis. C'est pourquoi, considérez ces choses et distinguez. Dieu laissa à Adam la liberté sur la terre, où il fut chassé lorsqu'il désobéit à son commandement, et Dieu laissa à Caïn la liberté sur la terre, après qu'il eut tué son frère au sujet de la religion, et Dieu laissa au sauvage Ismaël la liberté dans le désert, après qu'il eut été chassé de la famille d'Abraham, père des fidèles, et le serpent eut sa liberté de se nourrir de la poussière de la terre. Or je dis, considérez qui sont ceux qui ne voudraient pas laisser le Christ, le juste, vivre sur la terre, n'était-ce pas ce que le Christ appelait serpent, les juifs, les grands professeurs ? Ce n'était pas la pensée de Dieu que les gens soient hors de la terre. Dieu laissa à Adam et Ève la liberté sur la terre après qu'ils eurent transgressé, bien qu'ils n'eussent pas la liberté dans le jardin. Et Ismaël, bien qu'il n'eût pas la liberté dans la famille d'Abraham, eut pourtant la liberté dans le désert. Et Caïn, bien qu'il n'eût pas la liberté dans la présence de Dieu, eut pourtant la liberté d'être errant au pays de Nod. Considérez donc quel esprit est celui qui ne voudrait pas laisser aux hommes la liberté sur la terre, même s'il n'est pas de votre assemblée, il devrait pourtant avoir la liberté sur la terre. Considérez donc si c'est la pensée de Dieu, ou contre elle, oui ou non, bien que le juste passe au-dessus de toutes ces choses et soit racheté de la terre. Et si nous ne devons pas nous réunir ensemble, comment devons-nous nous exhorter les uns les autres, nous édifier les uns les autres et nous provoquer les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, si nous ne devons pas nous réunir pour nous parler les uns aux autres? Considérez cela avec intelligence. Le monde disait, embrasse le livre disait, embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et le Fils disait, ne jurez point du tout, mais tenez-vous au oui et au non dans toutes vos communications, car tout ce qui est en plus vient du mal. Le monde disait, poste ta main sur le livre disait, maniez la parole, et la parole disait, ne maniez ni les traditions, ni les inventions, ni les rudiments du monde, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, dit Dieu, lui qui est la vie, la vérité, la lumière et la voie vers Dieu, lui qui a dit, ne jurez point du tout. C'est pourquoi n'encombrez pas le sol, vous adultères, n'encombrez pas la terre, vous ivrognes, n'encombrez pas le sol, vous jureurs, n'encombrez pas le sol, vous orgueilleux, Jean vain, n'encombrez pas la terre, vous vers de terre, Jean cupide, n'encombrez pas le sol, vous oppresseurs et extorqueurs et broyeurs des pauvres, n'encombrez pas le sol, vous persécuteurs des enfants du trésor, n'encombrez pas le sol, vous riches gloutons, n'encombrez pas la terre, vous oisifs, qui vivez dans l'excès des plaisirs et dans l'abondance de l'oisiveté, comme le Caïn, la première naissance, un persécuteur, la première naissance, un faux adorateur, et Caïn, la première naissance, ce faux adorateur, s'est tourné, et se tourne, contre Abel, et de la souche de Caïn, la première naissance, est issu le faux adorateur, inventeur des harpes et des orgues. la souche de Nimrod, de faux adorateurs, et de la souche de Cham, il est venu, lui dont l'esprit n'était pas couvert de vérité, mais de ce qui venait de la vérité. Et ainsi cet esprit qui fuit la vérité n'est pas comme Sem ni Japhet, et un tel ne rend pas culte à Dieu en esprit. Et ceux de l'ancien monde, qui s'éloignèrent de l'esprit du Seigneur et attristèrent son esprit, ne pouvaient pas rendre un culte à Dieu en esprit. Les Philistins attristèrent l'esprit du Seigneur, ils furent des persécuteurs et se tournèrent contre le juste. Les Sodomites furent les persécuteurs du juste, et les Sodomites étaient de ceux qui vivaient dans l'abondance d'oisiveté et la plénitude, et ceux qui étaient oisifs et repus persécutaient les justes et les droits, et les vrais adorateurs, et ceux qui le firent et le font sont les faux adorateurs. Et Ismaël et sa souche, la première naissance, qui se moquaient du juste et se tournent contre le juste, persécuteurs, ainsi sont tous les hommes sauvages d'aujourd'hui. Et Ésaü, la première naissance, l'homme profane, un faux adorateur, persécuteur de Jacob, comme tant d'Ésaü aujourd'hui persécutent ce que Dieu aime, eux qui haïssent la première naissance étant persécuteurs, profanes, faux adorateurs que Dieu n'aime pas. Les Égyptiens étaient et sont des persécuteurs et de la première naissance. Et Balaam était un persécuteur du juste, et Balaam aimait le salaire de l'injustice, et de tels Balaam aujourd'hui sont les amis du salaire de l'injustice et les persécuteurs. Les Juifs qui professaient la loi, les paroles de Dieu, et vivaient hors de la vie de la loi de Dieu, cela persécutait et persécute le juste, et de tels professants ont toujours été, et sont encore, des persécuteurs. Les persécuteurs sont toujours de ceux qui prêchent pour de l'argent, devinent pour de l'argent et enseignent pour un gain honteux, et de tels bergers, évêques et prêtres, qui enseignaient pour la toison et la laine, pour des poignées d'orge et pour des morceaux de pain, et étaient ainsi cupides. Ceux-là furent et sont des persécuteurs et de faux adorateurs, persécutant le juste et les vrais adorateurs de Dieu en esprit, et ceux qui agissaient ainsi attristaient l'esprit. Les scribes, les pharisiens et les principaux prêtres, qui avaient les paroles des prophètes et des saints, n'étaient pas dans la vie de la loi, comme l'étaient les prophètes et les saints, et pourtant ils professaient leurs paroles, tout en persécutant et en persécutant encore le juste, ceux qui sont dans la vie des saints. De même, tous les chrétiens qui professent les paroles des prophètes, du Christ, des apôtres, de Moïse et des saints, et qui sont hors de leur vie et de leur esprit, sont de faux adorateurs et persécutent le juste. Et c'est là la fin de toute profession sans la vie et l'esprit de Dieu dans lesquels les saints demeurent et marchent, eux qui sont les vrais adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont les fils de Dieu, et les faux adorateurs sont ceux qui attristent l'esprit de Dieu, et pourtant s'emparent des paroles des saints et du vêtement de brebis, sans vivre dans leur vie. La première naissance vit dans le royaume du monde, dans la lutte, persécutrice. La première naissance est une naissance de lutte, et la seconde naissance est héritière du royaume du Seigneur, et les fruits de cette naissance sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, etc. Sortez donc de la première naissance pour venir à la seconde. Caïn, Cham, Nimrod, Ismaël, Ésaü, Balaam, les Sodomites, les Philistins, les Pharisiens, les principaux prêtres Babylone, n'étaient-ils pas tous jaloux, sauvages, profanes, oisifs, cupides, oppresseurs, persécuteurs, faux adorateurs? Ainsi vous qui êtes de la même nature et de la même naissance, n'était-ce pas, et n'est-ce pas la première naissance? Si tel est le cas, reconnaissez votre propre parenté et sortez de cette parenté. Moqueurs, railleurs, dériseurs, reprocheurs, injurieux, crêleurs, polémistes, hommes envieux, professez-vous Dieu et Christ, tout cela n'est que mauvais ivraie et encombre le champ de Dieu. Les Babyloniens furent et sont des persécuteurs des justes et des vrais adorateurs de Dieu. Et les Babyloniens élèvent et renversent ceux qui ne sont pas dans la puissance, la vie et l'esprit constant de Dieu, où se tenaient les apôtres et où nous nous tenons. Et ainsi ils ne sont pas sur le roc, Christ Jésus, sur lequel nous sommes, roc qui ne change pas. George Fox à tous les chefs de famille, de quelque sorte qu'ils soient, concernés ici, par G.F.I. À tous les chefs de famille, de quelque sorte qu'ils soient, qui ont autorité et commandement sur enfants et serviteurs, et qui devraient les élever dans la crainte de Dieu, et dans la modestie, la civilité, la sobriété, la soumission et la gravité, mais, au contraire, la conduite non chrétienne est manifeste, se découvre et se montre à tous. Car regardez-vous, vous et vos enfants, combien ils sont sauvages et méchants, vains orgueilleux, et une multitude de paroles malséantes. Vos serviteurs et vos enfants ont eu pour pratique de venir presque continuellement vers le peuple élu de Dieu, appelés par dérision les Quakers à leurs réunions et à leurs maisons, en raillant, en méprisant et en se moquant, avec toutes sortes d'expressions diffamatoires qu'ils peuvent inventer et jeter sur ces mêmes personnes, en les injuriant, en lançant de la boue et de la saleté, et des pierres à leurs fenêtres. Si vous aviez soit modestie, soit gravité, soit bon voisinage, vous auriez honte de voir vos enfants faire de telles choses, ou même d'en entendre parler, ce qui a souvent été dit devant plusieurs d'entre vous. Ainsi vous agissez à l'encontre du christianisme, où réside la vertu, et vous avez aussi rejeté derrière votre dos la loi de Dieu, qui est de faire à autrui ce que vous voudriez qu'on vous fît. Quoi voudriez-vous? Que nous nous moquions de vous, que nous vous raillions, et que nous vous jetions de la saleté lorsque vous allez à vos réunions, et que nous vous lancions des pierres pendant vos réunions, et que nous brisions vos fenêtres? Diriez-vous que c'est là bon voisinage, ou bon christianisme, ou est-ce observer la loi que de faire à autrui ce que vous voudriez qu'on vous fît? Ainsi, par cela même, ne voyez-vous pas que vos jeunes gens ne sont pas élevés dans la sobriété? Car beaucoup de personnes âgées ont encouragé les jeunes et les jeunes gens à ces mêmes actions, ce qui montre que la gravité s'est perdue, alors que les anciens devraient être graves et modérés, et les jeunes sobres et tempérants. Et vous aussi, maîtres des collèges et des écoles, de quelque sorte qu'ils soient, n'avez-vous pas honte d'entendre parler des abus de vos élèves? Ne vous l'a-t-on pas souvent dit et présenté? Ne devriez-vous pas enseigner à vos élèves la civilité et les bonnes manières? Les mauvaises paroles ne corrompent-elles pas les bonnes mœurs? Est-ce là éducation et bonne manière que vos élèves viennent aux maisons de gens sobres et civils, qu'ils en brisent les fenêtres, qu'ils jettent de la saleté sur des personnes civilisées et qu'ils lancent de la boue et des pierres parmi eux lorsqu'ils sont réunis pour attendre le Seigneur, et qu'ils se moquent, raillent, reprochent, insultent et calomnient avec une langue diffamatrice toutes sortes de calomnies qu'ils peuvent inventer? Voudriez-vous qu'on vous traitât ainsi, qu'on agît de la sorte envers vous? Élevez-vous vos enfants dans la crainte de Dieu, ou selon la loi, ou l'Évangile? N'avez-vous pas honte de ces choses, ou appelez-vous cela bon voisinage, ou n'avez-vous pas honte de regarder vos voisins en face? Assurément, la gravité, la modestie, la civilité, la sobriété, et l'éducation des enfants dans la crainte de Dieu se sont perdues parmi vous, et cela ne fait-il pas honte au christianisme sous toutes ses formes, car beaucoup de païens n'ont pas été aussi mauvais envers nous, Vous tous, chefs de collège, n'avez-vous pas honte de voir vos élèves ou d'entendre parler de leur grossièreté, de leur absence de vertu, de leur manque de sobriété, de leur manque de grâce, et de leur impudence dans leur conduite envers le sobre peuple de Dieu, appelé parmi vous par dérision les Quakers? Vos jeunes élèves n'ont-ils pas déchiré leurs vêtements et ne les ont-ils pas renversés dans leurs caniveaux, et fait couler leur sang dans les rues sur vos pavés, et arraché leurs habits de leurs dos, et jeté boue, pierres et ordures parmi les sur eux, et brisé leurs fenêtres et les bancs où ils s'asseyaient, et bondi au milieu d'eux, et les avoir meurtris et battus avec les mêmes morceaux qu'ils avaient arrachés de leurs bancs, et apporté à boire et l'avoir jeté au visage de ceux qui se réunissaient dans la crainte de Dieu, et demandé des filles, des femmes et des servantes? Astérisco, ces actions ne font-elles pas honte à la modestie et au christianisme? Sont-ce là des gens propres à être ministres et à être formés comme ministres de Christ, parmi lesquels il n'y a pas de meilleur gouvernement, car ce ne sont pas quelques-uns seulement qui sont venus, mais parfois par dizaines, ils ont commis ces nombreux abus dans et à nos réunions. Cela ne montre-t-il pas l'impiété, et cela ne manifeste-t-il pas que les autorités, les gouverneurs, les maîtres et les chefs de collège ne sont pas eux-mêmes graves, puisque leurs jeunes hommes ne sont pas sobres, il est manifeste que les anciens ne sont pas graves, eux qui devraient élever les jeunes à être sobres et tempérants. Car là où sont la sobriété, la tempérance, la modestie, la civilité, la douceur, la mansuétude, la sainteté et la justice, n'est-ce pas cela qui embellit un peuple parmi vous? Car voudriez-vous qu'on vous traitât ainsi, qu'un autre peuple vienne se moquer, vous reprocher, et jeter des pierres et de la saleté parmi vous dans vos réunions? Appelleriez-vous cela des manières, de l'éducation et de la gravité? Ces actions ne font-elles pas honte aux maîtres comme aux élèves? Ne déshonorent-elles pas la vertu, l'éducation et les bonnes manières? Et ne rendent-elles pas manifeste à tous les étrangers l'incivilité de leurs écoles? Nous avons trouvé plus de gravité chez les païens que dans ces deux observatoires de la nation, qui n'ont pas le nom de piété, et dont les actions la contredisent. Par conséquent, amendez vos voies et votre manque de discipline. Astérisque pour lire les récits choquants de ces étudiants corrompus destinés au ministère, tant à Oxford qu'à Cambridge, voire persécution. Et vous tous, ministres et surveillants, n'avez-vous pas honte de voir votre peuple si grossier, si léger et si vain, si impudique et si intempérant? Quelle ivrognerie, quel juron et quelle profanation y a-t-il parmi vous? N'est-ce pas comme Sodome, et des gens plus semblables aux Égyptiens qu'aux chrétiens, plus loups et philistins que brebis? Considérez donc quel compte vous rendrez au juge de tous, qui rendra à chacun selon ses œuvres et ses actes. Où est donc la modestie parmi vous? Où est la sobriété? Vos jeunes hommes ne manquent-ils pas de gravité? Et vos jeunes femmes de pudeur et de sobriété? N'avez-vous pas, vous les enseignants, perdu à la fois l'exemple et le modèle qui aurait dû être manifesté au peuple? Regardez parmi votre peuple, la bonne éducation n'est-elle pas presque perdue, et les bonnes manières corrompues par les mauvaises paroles? Et les gens ne marchent-ils ni selon la loi ni selon l'Évangile? Car s'ils marchaient selon la loi, alors vous feriez à tous les hommes ce que vous voudriez qu'ils vous fassent, et s'ils marchaient selon l'Évangile, alors ils aimeraient leurs ennemis. Est-ce aimer ses ennemis que de lapider, se moquer, battre et calomnier le peuple de Dieu, qui s'est paisiblement réuni pour adorer Dieu? Voudriez-vous qu'on vous traitât ainsi? Voudriez-vous que d'autres vous fassent cela? Faites-vous aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent? Observez-vous donc la loi ou l'Évangile? Par conséquent, vous tous, chefs de famille, maîtres et maîtresses d'école, maîtres de collège, gouverneurs, enseignants, magistrats, et tout le peuple, faites à tous les hommes ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Observez cette règle de la loi et des prophètes, si vous ne pouvez obéir à l'Évangile, qui est d'aimer ses ennemis et de s'aimer les uns les autres. Si vous ne pouvez atteindre si haut que la vie d'un chrétien, c'est-à-dire l'Évangile qui est d'aimer ses ennemis, amour d'un cœur pur qui est la fin de la loi, venez du moins à obéir à la loi, qui est de faire à autrui ce que vous voudriez qu'on vous fît. Amis, vous avez eu un temps de persécution, d'emprisonnement, de spoliation des biens du peuple de Dieu, niant la lumière, manifestant vos œuvres de ténèbres, et vos actes comme étant toujours de ceux qui haïssaient la lumière et la persécutaient, si bien que le lieu destiné aux enfants qui professaient la lumière était vos prisons, vos maisons de correction, vos ceps, et vos fouets pour ceux qui marchaient dans la lumière. Or, quel bien toute votre profession vous a-t-elle fait, ainsi que vos œuvres, et à quoi tout cela a-t-il abouti? Votre zèle n'était-il pas aveugle, votre culte selon vos volontés, votre humilité feinte, et votre religion vaine? Cela ne montre-t-il pas maintenant qu'elle ne vaut pas la peine qu'on s'y tienne et qu'on la maintienne? Maintenant que votre foi d'église et votre directoire astérisque ne valent pas qu'on les ramasse dans la rue, tous ceux qui passent ne peuvent-ils pas dire « Oh, comme la belle ville est tombée, qu'est devenue la muraille et les portes, votre désolation n'est-elle pas venue maintenant, avec la perte de vos enfants ?» Beaucoup d'entre vous ne se mordent-ils pas la langue de douleur, ne se tiennent-ils pas à l'écart, en criant « Hélas, hélas, comme la grande ville est tombée !» Quel hurlement parmi les marchands, il apparaît ainsi que vous êtes retournés, comme le chien, à son vomi, et comme la truie, à la boue dont elle avait été lavée. N'étiez-vous pas à votre comble, comme une truie qui déchire, et comme un chien qui mord? La persécution n'a-t-elle pas toujours été aveugle? Astérisque à cette époque, le Parlement a voté une loi déclarant illégale toutes les réunions religieuses, sauf celle de l'Église d'Angleterre épiscopale. Les Quakers continuèrent à se réunir ouvertement et subirent arrestations, amendes et emprisonnements, voire la mort. Mais les presbytériens, baptistes et puritains tentèrent de se réunir en secret ou se convertir tout simplement pour devenir épiscopaliens, y compris la plupart de leurs ministres, beaucoup cherchant un emploi dans des districts très éloignés de leurs anciens paroissiens, afin d'éviter l'embarras d'accepter un emploi rémunéré dans la même église qu'ils avaient si fermement critiqué comme étant trop papiste dans ses traditions, ses rites et ses cérémonies. Ne devez-vous pas rendre compte de tous les biens que vous avez saisis comme butin, de tous les mauvais actes que vous avez commis, et de tout le sang des justes que vous avez versé, tant par les fouets que par les emprisonnements jusqu'à la mort? Par exemple, considérez l'innocent James Parnell, un saint, dont le sang juste repose sur vous, sans compter beaucoup d'autres, dont le sang juste a longtemps crié vengeance, qui maintenant vient sur la tête de vous qui êtes éclaboussé du sang des justes, et vous êtes rempli du butin des innocents, oui, y compris de nombreuses maisons. Le Seigneur ne vient-il pas sur le spoliateur pour réprimander le dévoreur? Quel ravage vous fîtes il y a quelques années, quand vous étiez au sommet et au meilleur de votre religion? Fouetté, maître au cep, emprisonné, traîné de tribunal en tribunal, à peine quelqu'un pouvait-il approcher de vous, tant votre orgueil avait grandi. Le Seigneur ne tâche-t-il pas votre orgueil, et ne jette-t-il pas votre honneur dans la poussière? Il vous sera bon de trouver une place de repentance, et de venir à voir le chemin de paix, et qu'il n'est pas caché à vos yeux. Car la voie où vous avez persévéré ne pouvait prospérer, retournant votre épée en arrière contre les justes, et laissant les malfaiteurs en liberté jusqu'à ce qu'ils vous aient dominé. Ainsi la main juste de Dieu est sur vous, et vous pouvez dire que vous aviez du temps, mais que vous ne l'avez pas estimé. Considérez donc les jours que vous avez passés, les actes que vous avez faits, et les mauvaises voies dans lesquelles vous avez marché, et considérez maintenant si vous pouvez vous voir là où vous êtes. Voyez si toute votre religion, votre culte et votre profession n'étaient pas une œuvre de ténèbres, car maintenant, dans la tempête et l'orage, vous n'osez pas vous y tenir et la poursuivre, elle ne vous couvrira pas. Ainsi c'était une religion d'été quand votre soleil brillait, quand vous aviez la matraque, le bâton et le sac, alors chaque vipère sortait en rampant, mais maintenant l'hiver est venu, aucun de vous ne se voit en public, ainsi votre fuite est en hiver, ainsi non seulement vous avez apostasié de la doctrine et de la religion. Maintenant vous êtes manifeste au grand jour, de la part d'un ami de vos âmes immortelles, et qui a toujours été de ceux qui ne tournèrent jamais le dos ni la joue à vos coups, ni ne détournèrent leurs cheveux de vos arrachages, vous qui avez arraché et frappé jusqu'à vous être vous-même tombé dans le fossé, car nous ne vous y avons pas poussé, et si vous n'en avez pas assez, nos dos sont encore prêts, et nous avons encore une vache et un peu de grain, et pouvons donner du pain et à boire à nos ennemis s'ils en ont besoin, et nous avons aussi un pot, un plat, un cheval et du crédit, nous qui avons. George Fox, quelques questions auxquelles tous les enseignants et les professeurs de christianisme doivent répondre. Par George Fox, question I. Où a-t-on jamais vu les chrétiens des premiers temps établir des écoles de danse et des écoles d'escrime, et envoyer leur jeunesse apprendre à danser et à se battre à l'épée, comme l'ont fait, depuis les temps primitifs, ce qu'on appelle chrétiens? Qu'on nous montre où de telles choses étaient pratiquées dans les Écritures par les vrais chrétiens. Question I. Où des instruments de musique ont-ils été permis par Dieu d'être inventés et utilisés par les Juifs pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur? En effet, David les utilisa pour le Seigneur et dansa devant l'arche du Seigneur. Mais quel est l'usage et la fin de toute la musique et de toutes les danses dans la chrétienté? La mélodie que faisaient les vrais chrétiens n'était-elle pas dans leur cœur pour le Seigneur? Question I. Où les chrétiens primitifs ont-ils inventé des pièces et des spectacles, comme l'ont fait depuis les jours des apôtres ce qu'on appelle chrétiens? Question I. Est-ce qu'aucun des Juifs, sous l'Ancien Testament, inventa jamais des pièces et des spectacles pour en tirer de l'argent, comme le font maintenant ceux qu'on appelle chrétiens? Nous désirons que vous produisiez votre règle et votre exemple tiré de l'Ancien ou du Nouveau Testament, parmi les Juifs ou les chrétiens pour ces choses. Question V. Où les Juifs ou les chrétiens, au jour des apôtres, ont-ils établi ou pratiqué des appâts d'ours, des appâts de taureaux, des combats de coqs, des quilles et du jeu de boules, des cartes et des dés, et autres sports et jeux semblables, comme le font maintenant ceux qu'on appelle chrétiens, pour se divertir, gaspiller leur temps précieux, appeler cela un passe-temps, se réjouir et exciter la débauche chez les gens? Montrez l'Écriture pour ces choses, puisque vous prétendez quelle est votre règle. Ceux qui vivent dans la débauche sur la terre, et dans les plaisirs, ne sont-ils pas morts tout en vivant? Ceux qui se réjouissent ne doivent-ils pas se réjouir dans le Seigneur? Question V. Où les chrétiens au jour des apôtres ont-ils organisé et pratiqué des matchs de football et de lutte, fixé des courses de chevaux, et la chasse pour le plaisir, et autres choses semblables, se glorifiant ainsi de leur propre force et abusant des créatures? Ces choses ne sont-elles pas contraires à la pratique des hommes saints, qui se réjouissaient et se glorifiaient dans le Seigneur? Montrez-nous votre règle dans les saintes Écritures pour ces choses. Question V. Tous ces jeux, divertissements, spectacles, sports et autres exercices vains, encouragés dans la chrétienté, ne gâtent-ils pas et ne corrompent-ils pas la jeunesse et les hommes, et ne les ruinent-ils pas dans leur personne et dans leur bien? Et Amos ne dit-il pas « malheur à ceux qui chantent à la légère au son des instruments à cordes, et qui s'inventent des instruments de musique comme David, Amos 6, 1-5. George Fox a toutes sortes de gens dans la chrétienté. Ô vous, prêtres, n'est-ce pas à vous de prêcher à tout le peuple Christ Jésus, la nouvelle alliance? Comment en elle et par elle tous seront enseignés de Dieu, du plus grand au plus petit? Et n'est-ce pas cela l'Évangile? Au lieu de cela, vous prêchez la guerre et la discorde parmi le peuple, et vous guerroyez et crêlez avec lui pour vos dos, vos ventres et votre bouche, et vous n'êtes jamais satisfait, dépouillant et pressurant les biens de ceux à qui vous ne prêchez pas, et les jetant en prison, ceux qui ne veulent pas mettre dans vos bouches, et n'êtes-vous pas en cela différent des ministres de l'Évangile? De plus, ne prêchez-vous pas que les hommes doivent avoir le péché toute leur vie? Vous êtes donc des prêcheurs qui plaident pour le péché, et non pour Christ, qui est venu ôter le péché, détruire les œuvres du diable, et rendre les hommes parfaits. Ces traditions ne sont-elles pas les vôtres, et non les traditions de Christ et des apôtres? Des traditions, telles que d'asperger les nourrissons, de faire sur eux le signe de la croix, et qu'ils doivent avoir des parrains et des marraines, et n'enseignez-vous pas ces traditions comme doctrine parmi le peuple? N'est-ce pas votre propre tradition de dire au peuple que la maison à clocher est l'Église, ce que vous enseignez comme doctrine? La maison à clocher, que vous appelez l'Église, n'est-elle pas faite de chaux, de bois et de pierre? Ferez-vous croire au peuple que Christ a versé son sang pour de la chaux, du bois et de la pierre, et qu'il sanctifie chaux, bois et pierre, et qu'il est la tête de la chaux, du bois et de la pierre, et que Christ aime chaux, bois et pierre, et qu'au milieu de la chaux, du bois et de la pierre, Christ chantera des louanges? Car Christ sanctifie et aime, et a versé son sang pour l'Église dont il est la tête, et l'Église est son corps, et la chaux, le bois et la pierre ne sont pas son corps. Dire que la chaux, le bois et la pierre sont l'Église, le corps de Christ que les maçons et charpentiers ont fait, n'est-ce pas une tradition, comme chez les païens, qui faisaient une image de bois, de pierre ou d'une autre matière, puis disaient que c'était Dieu et l'adoraient? Car n'adorez-vous pas la maison, lorsque vous ôtez votre chapeau en y entrant, et en la traversant, alors même qu'il n'y a aucun service rendu à Dieu, comme vous prétendez qu'il y en a? N'est-ce pas votre propre tradition, et non celle de Christ et des apôtres, de faire commerce des paroles de Christ et des apôtres, qui souffrirent et moururent pour les avoir dites librement, comme ils les avaient reçues gratuitement, et qui jugeaient faux prophètes ceux qui prêchaient pour le lucre et faisaient marchandises des paroles. N'est-ce pas votre propre tradition de former vos ministres dans des écoles et qu'ils doivent y servir 7 ans avant de pouvoir prêcher? N'est-ce pas comme d'autres artisans qui fonctionnent par corporation, n'autorisant personne à exercer son métier s'il n'a pas fait un apprentissage de 7 ans? N'avez-vous pas, dans cette tradition, abandonné l'ordination de Dieu et de Christ en faisant des ministres? Vous êtes loin de Christ, qui a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair, et ses fils et ses filles prophétiseront. L'apôtre a dit qu'il n'avait pas été fait ministre par des hommes ni par le moyen des hommes, et que ce qu'il avait reçu et qu'il ministérait ne venait pas de l'homme, ni de la part de l'homme, mais du Seigneur Christ. Tout ce que vous avez reçu ne vient-il pas de l'homme, fait par des hommes? Ne persécutez-vous pas ceux qui ne veulent pas le recevoir et vous donner de l'argent pour cela, tandis que les prophètes et les apôtres ne vendaient pas ce qu'ils avaient reçu de Dieu pour tant par an, 100 livres, plus ou moins, selon ce qu'ils pouvaient obtenir, comme vous faites, mais cela n'était pas évalué en argent. Le prophète a dit, « Que tous viennent librement, sans argent et sans prix », et Christ a dit à tous ses vrais ministres et à l'Évangile, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Mais des gens de métier qui ont servi un apprentissage et qui n'ont pas reçu gratuitement disent qu'ils ne doivent pas donner gratuitement car cela leur a coûté de l'argent, et ainsi le commandement de Christ et des prophètes et les pratiques des apôtres sont mises de côté comme un vieil almanach. Voyez, écoutez l'appel des patriarches, des prophètes et des apôtres, Abel était berger. Dieu eut égard à l'offrande d'Abel parce qu'il était juste, mais à l'offrande de Caïn, sanguinaire et persécuteur, faite selon la coutume et la forme, et non dans la foi, Dieu n'eut aucun égard. Genèse 4, 2-5. Abraham devait quitter la maison de son père, son pays et sa parenté, et ainsi leur religion et leur culte. Genèse 12, 1. Jacob et ses 12 fils étaient bergers, gardiens de troupeaux. David, bien-aimé de Dieu, prophète, gardait les brebis de son père. 1 Sam 16, 11-13. Le Seigneur appela Gédéon tandis qu'il battait le blé près du pressoir, Juges 6, 11. Élisée fut appelée de derrière la charrue pour être prophète, et Élie comme Élisée furent persécutés par Jézabel. 1 Rois 19, 21. Amos était prophète, ramasseur de figues et gardien de troupeaux, Amos 1, 1. Moïse était prophète et il gardait des brebis, Exode 3, 12. Pierre et André, des hommes sans instruction, furent appelés loin de leur filet tandis qu'ils pêchaient, Matthieu 4, 18. Et Jacques et Jean son frère furent appelés alors qu'ils raccommodaient leur filet pour suivre Christ, et eux, laissant leur père, leur filet et leur barque, suivirent Christ, Matthieu 4, 21. Les sages trouvèrent Marie et Joseph, et Christ couché dans la crèche, dans la mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Astérisque Joseph était charpentier. Christ fut appelé charpentier et fils de charpentier. Vous reléguez de tels hommes à l'étable, Luc 2, 16. Matthieu était assis au bureau des impôts, et Christ le vit et lui dit « Suis-moi », et il se leva et le suivit, il devint évangéliste, Matthieu 9, 9. Astérisque commentaire de l'éditeur du site. Comme cela s'est produit à Bethléem, les hommes ne fournissent pas à Christ un logis convenable et propre. Les hommes le forcent à vivre dans leur cœur souillé, plein de convoitise, d'avidité, d'orgueil, de haine et d'immoralité. Christ est forcé de vivre dans le cœur des hommes, qui se conduisent comme des bêtes, comme il fut contraint d'aller dans la mangeoire. Nous sommes trop occupés pour faire l'effort d'être purifiés par sa grâce, pas de place dans l'hôtellerie. Nous le traînons à travers tous nos péchés, le forçant à regarder, le transperçant à chaque accès de colère, d'avidité ou de convoitise, puis nous allons à un office de secte et nous lui chantons avec nos lèvres, tandis que nos cœurs restent sales et très éloignés de tout amour de Dieu. Luc, appelé alors qu'il était médecin, devint évangéliste, Col 4,14. Achillas et Priscille et sa femme étaient artisans, fabricants de tentes, et ils instruisirent Apollo, Actes 18, 24-26. Paul était fabricant de tentes et travailla avec Achillas et Priscille, étant du même métier, Actes 18, 1-3. Christ et ses disciples allèrent dans son propre pays et prêchèrent dans leur synagogue, et ses compatriotes dirent « D'où cet homme tient-il cette sagesse, et n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques et de José, et de Jude, et de Simon, ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et ils étaient scandalisés à cause de lui, Marc 6, 2-3. Et que faisaient les autres des 12 et les 70 disciples? Certains n'étaient-ils pas des gens de métier, exerçant des professions? Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment cet homme connaît-il les Écritures, puisqu'il n'a jamais étudié ?» Jésus dit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, et si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si la doctrine est de Dieu, ou si je parle de moi-même. » Jean 7, 15-17. Ésaïe dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, et le Seigneur m'a oint et m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, et à ceux qui sont liés, l'ouverture de la prison. Quand les chrétiens ont-ils perdu cette mission du prophète Ésaïe, pour qu'ils en viennent maintenant à se saisir l'un l'autre à la gorge, à se jeter en prison, à lier et faire des captifs, à briser au lieu de panser les cœurs brisés? Est-ce là votre bonne nouvelle, vous qui dites ne pas avoir l'esprit comme les apôtres et les prophètes l'avaient? Nous considérons tous vos enseignants de la chrétienté d'après vos fruits, comme Christ nous l'a appris, et par vos fruits nous savons que vous n'êtes pas comme les apôtres, mais tel que Christ a parlé en Matthieu 7:15-21, comme des ronces, des épines, des chardons, et non des figuiers et des vignes, mais des mercenaires et des cupides, avides de gains et de récompenses et persécuteurs, ce que Christ et les apôtres ont interdit. Vous avez abandonné le commandement de Christ et des apôtres, qui est de s'aimer les uns les autres et d'aimer ses ennemis. Par conséquent, comme Christ a dit, ne les suivez pas en Luc 17:23, et comme les apôtres ont dit, nous devons nous détourner de tels gens, comme en 2 Tim 3:5. N'est-ce pas une tradition de votre cru, et non de Christ, des prophètes et des apôtres de prêcher à l'aide du sablier, dans une chose comme une cuve sur un coussin moelleux, et lorsque le sablier est écoulé de dire « le temps est passé, voisin », n'est-ce pas comme dire « vous avez eu votre mesure, allez-vous-en, Christ, les prophètes et les apôtres prêchaient-ils selon un horaire ?» Gagnait-il tant par jour ou par an pour prêcher au sablier? Y avait-il une chair comme la vôtre, dont on puisse lire l'existence dans les Écritures? Car environ 40 hommes ne pouvaient-ils pas s'y tenir? Lisez et voyez, Nehemie 8:4-5. Quel commandement avez-vous de persécuter ou d'emprisonner quiconque, au sujet de la religion ou du culte, de la part de Christ, à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre? Christ ne vous commande-t-il pas au contraire de vous aimer les uns les autres et d'aimer vos ennemis? Et donc de ne pas vous haïr les uns les autres, ni de haïr vos ennemis, comme le font aujourd'hui ceux qu'on appelle chrétiens. Car Dieu n'a-t-il pas aimé le monde, qui était son ennemi, au point de donner son Fils unique au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle? Et l'amour de Christ n'a-t-il pas été manifesté au monde en ce que, alors qu'ils étaient pécheurs et impies, Christ est mort pour eux? Si des gens ont péché dans leur jugement au sujet de la religion et se trompent, Christ vous a-t-il dit de les persécuter à cause de leurs péchés, pour lesquels il est mort et a goûté la mort pour chaque homme? Il a été manifesté dans la chair pour condamner le péché dans la chair, et la promesse est qu'il ôtera leurs péchés, qu'il détruira le diable et ses œuvres, ce diable qui est l'auteur du péché, et dont l'œuvre est le péché. Ainsi, c'est l'œuvre de Christ de détruire le péché et son auteur, le diable, et non de détruire les créatures. Il accomplit ainsi la promesse de Dieu, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Christ est le chemin vers Dieu, qui ramène l'homme et la femme à Dieu, détruisant celui et ceux qui ont éloigné l'homme et la femme de Dieu et l'ont maintenu loin de Dieu. Christ vous commande de vous aimer les uns les autres et d'aimer vos ennemis, et il reprend ses disciples qui voulaient faire descendre le feu du ciel pour détruire ceux qui ne pensaient pas comme eux. Christ leur dit qu'il n'était pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver, notez-le. Et Christ vous commande dans les Écritures de laisser croître ensemble le blé et l'ivraie jusqu'à la moisson, et il réprimande ses serviteurs qui voulaient aller arracher l'ivraie, et dit, de peur qu'en arrachant l'ivraie, ils n'arrachent aussi le blé. Que tous ceux qui disent être chrétiens retiennent ceci, et les paroles de Christ, et voient comment ils y obéissent. Christ dit que la moisson est la fin du monde, et que les anges sont ses moissonneurs. Que les hommes et les femmes accomplissent donc le commandement de Christ, s'aimer les uns les autres et aimer leurs ennemis, cela distinguera les chrétiens des pharisiens et des scribes, car Christ est venu mettre en liberté le captif. Prenez garde à la sentence qu'il prononcera contre ceux qui ne le visitent pas, lorsqu'il est emprisonné dans ses membres, et si ceux qui ne le visitent pas en prison, là où il est manifesté, vont au châtiment éternel, que deviendra donc ceux qui le jettent en prison, jugez-vous vous-même. Car la liberté est un droit naturel, et toute créature naturelle veut son droit naturel, sa liberté, et Christ donne la liberté et rompt les liens. Là où l'Esprit du Seigneur règne, il y a liberté, mais là où il est étouffé, il y a servitude, et non liberté, cette servitude qui fait gémir toute la création, que la créature attend d'être délivrée pour entrer dans la glorieuse liberté des fils de Dieu par Christ. Toutes les créatures, dans le ciel et sur la terre, lui rendent la gloire et l'honneur, car il en est digne, lui qui donne la liberté et détruit et consume l'homme de péché. Quel salaire le Seigneur désire-t-il de vous pour sa terre qu'il vous donne, à vous enseignants et grands hommes, et à tous les fils des hommes, et à toutes les créatures, sinon que vous lui rendiez louange, honneur, action de grâce et gloire, et non que vous dépensiez les créatures pour vos convoitises, mais pour faire du bien avec elles. Vous qui avez beaucoup, donnez à ceux qui ont peu, et honorez ainsi Dieu avec vos biens, car vous n'avez rien apporté dans le monde, et vous n'en emporterez rien, mais vous laisserez derrière vous toutes les créatures telles que vous les avez trouvées, que Dieu a données pour servir toutes les nations et toutes les générations, afin que vous ayez nourriture et vêtements. Contentez-vous de cela, ce qui est la règle des apôtres et un exemple pour vous tous. Le commandement de Christ est « ne pas vous inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit son mal ». Il vous dit de considérer les lits, comment ils vivent sans souci ni inquiétude, et que l'un d'eux surpassait Salomon dans toute sa gloire, et que vous devriez les surpasser et être au-dessus d'eux. Car Dieu fit ainsi l'homme avant sa chute, le plaça au-dessus de toutes les œuvres de ses mains, avant qu'il ne tombe, et ainsi il est de nouveau dans la restauration par Christ, bien que, dans la chute, il soit en captivité sous les créatures. Quel commandement avez-vous de Christ et des apôtres, vous qui êtes appelés chrétiens, pour vous juger et vous persécuter les uns les autres au sujet des aliments, des vêtements, comme les manteaux blancs et les manteaux noirs, et des jours? L'apôtre ne vous commande-t-il pas au contraire de ne pas vous juger les uns les autres à propos de telles choses, et ne vous dit-il pas que le royaume des cieux ne consiste pas en ces choses, mais en justice, paix et joie dans le Saint-Esprit? Vous jugez et persécutez les uns les autres au sujet de choses dans lesquelles le royaume de Dieu ne consiste pas, et vous laissez la justice, la foi et la joie dans le Saint-Esprit? L'apôtre ne vous dit-il pas, la nourriture est pour le ventre et le ventre pour la nourriture, et Dieu détruira l'un et l'autre, de même, les vêtements ne sont-ils pas pour le corps? Christ ne vous dit-il pas que, ce qui entre dans la bouche et le ventre ne souille pas l'homme, mais la méchanceté, ce qui sort de son cœur souille l'homme? Les pharisiens et les scribes, et les principaux sacrificateurs n'ont-ils pas persécuté Christ et ses apôtres parce qu'ils n'observaient pas leurs jours et leurs traditions? Christ ne leur dit-il pas qu'il était seigneur du sabbat, et comment ils avaient abandonné le commandement de Dieu et enseigné leur propre tradition comme doctrine? La chrétienté n'a-t-elle pas fait de même, à abandonner les commandements de Christ et des apôtres, et enseigner ses propres traditions comme doctrine, qu'elle n'a pas reçue de Christ ni des apôtres, et si des hommes ne les observent pas, ils sont jugés et persécutés, emprisonnés, et leurs biens sont spoliés? N'est-ce pas votre propre tradition, et non celle de Christ et des apôtres, de vous persécuter les uns les autres au sujet de la religion et du culte? Car l'apôtre ne dit-il pas, « Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? » Car ils doivent tous se tenir ou tomber devant leur propre maître, et chacun doit rendre compte à Dieu. Et n'est-ce pas votre propre tradition de vous persécuter les uns les autres au sujet des jours, des aliments, des vêtements et des choses extérieures, dans lesquelles le royaume de Dieu ne consiste pas? Car l'apôtre ne vous dit-il pas, que chacun soit pleinement convaincu dans son propre esprit? En cela, n'avez-vous pas ignoré son commandement et suivi vos propres traditions? N'est-ce pas votre propre tradition et commandement d'établir un entretien forcé, et les dîmes pour un ministère chrétien, qu'ils prêchent aux gens ou non? Car le commandement de Christ au ministre de l'Évangile n'est-il pas, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, et ne vous inquiétez de rien, etc. » et allez dans toutes les nations prêcher l'Évangile? Ne lui ont-ils pas obéi? Ces ministres d'aujourd'hui, établis et installés dans de grands bénéfices et revenus, laisseront-ils leurs revenus et bénéfices et iront-ils dans toutes les nations prêcher l'Évangile? Non, ne se soucient-ils pas d'eux-mêmes et de leurs familles, comme les païens? Et ils n'auront maintenant aucun appel de Dieu, à moins que ce ne soit vers un bénéfice plus grand. Et quand la commission de Christ a-t-elle été changée, N'est-ce pas votre propre tradition, vous qui ne permettez à personne de prêcher sinon vous-même, et si quelqu'un le fait, il tombe sous votre jugement et est persécuté comme imposteur, bien qu'il soit plus vrai que vous-même, et qu'il parle librement, comme Christ le commande, ayant reçu gratuitement? Ces ministres sont-ils donc jamais susceptibles de convertir soit juifs soit païens, eux qui ne sortent pas de leur paroisse, sauf pour un revenu plus grand, et qui n'obéiront ni eux-mêmes au commandement de Christ, ni ne permettront à d'autres de le faire? N'est-ce pas votre tradition et votre usage, et non ceux de Christ et des apôtres, que des chrétiens emploient des armes charnelles dans leur combat pour le ciel, et au sujet du culte et de la religion, puisque les apôtres ont dit que les armes de leur guerre n'étaient pas charnelles, mais spirituelles, et que l'esprit et la chair luttaient et se faisaient la guerre l'un à l'autre? Ainsi l'esprit n'a-t-il pas ses armes spirituelles, avec lesquelles il combat? La chair n'a-t-elle pas ses armes charnelles, avec lesquelles elle combat, pour son culte et sa religion? Et ceux qui agissent ainsi ne sont-ils pas charnels, dans la chair, et peuvent-ils plaire à Dieu? L'apôtre a dit qu'il devait fermer la bouche aux contradicteurs en les convainquant, mais jeter des gens en prison ou les persécuter au sujet de la religion ne fermera pas leur bouche ni ne les convaincra. Et ce n'était pas la coutume des apôtres, ni de Christ, mais des païens et des juifs, Et n'est-ce pas votre propre usage ou tradition que ceux qui doivent prêcher soient cupides, frappeurs et mercenaires, quand Christ vous dit qu'un mercenaire s'enfuit et abandonne le troupeau, et l'apôtre vous dit que les ministres ne doivent pas être frappeurs, ni cupides, ni adonnés à un gain honteux? Notez donc votre propre usage, et considérez les paroles des apôtres et obéissez-y.
Vieille.
N'est-ce pas votre propre tradition et usage que de faire vos ministres par la volonté des hommes, alors que l'apôtre a dit qu'il avait été fait ministre de Christ, non par des hommes ni par le moyen des hommes, mais par la volonté de Dieu, et qu'il ne l'avait pas reçu des hommes, mais par la révélation de Jésus-Christ. Et ainsi le recevoir des hommes pour de l'argent, et le revendre pour de l'argent, n'est-ce pas votre propre tradition et usage, et non ceux de Christ et des apôtres, qui a dit, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement », et l'apôtre a dit qu'il ne faisait pas marchandise de la parole de Dieu, et qu'il n'enseignait pas pour un gain honteux. La chrétienté n'a pas été correctement plantée, ni par les mêmes planteurs que les apôtres, et donc pas par la même puissance et le même esprit dans lesquels étaient les apôtres. Au contraire, elle a été plantée par les volontés des hommes, par l'épée et la matraque, et convertie par ceux qui disent ne pas avoir la même puissance et le même esprit que les apôtres avaient. Ainsi l'un plante, et l'autre arrache, mais vous, qui avez été plantés par la même puissance et le même esprit que les apôtres, vivez dans la vie mortifiée. Vous qui êtes juifs en esprit, adonnez-vous à la lecture de la loi de Jésus, qui l'a fait rois et prêtres, comme les rois et les prêtres devaient s'adonner à sa lecture, afin d'instruire le peuple à la pratiquer, pour que la bénédiction de Dieu vienne sur lui, et non la colère. Ainsi vous devez obéir à la loi de Jésus. Tous les hommes, partout, doivent abattre les imaginations de leur cœur, et le mal de leur pensée terrestre, ainsi que leur sagesse, leur science et leur intelligence, et toutes les images et idoles de leur cœur, par l'esprit que Dieu leur a donné, afin qu'ils puissent offrir au Seigneur un sacrifice et une offrande dans son temple. Les Juifs, dans l'esprit, sont au-delà et au-dessus de tous les Juifs extérieurs selon la chair, et de leurs offrandes extérieures dans leur temple, et les offrandes des Juifs dans l'esprit renversent toutes les offrandes extérieures des Juifs du dehors, afin d'offrir ce qui est intérieur. Les Juifs du dehors mangent de leurs offrandes extérieures dans le temple, et de même les Juifs dans l'esprit mangent de leur offrande, Christ, dans leur temple, et de leur sacrifice, et alors ils louent Dieu dans leur temple. Les lampes des Juifs du dehors brûlent toujours dans leur temple, et ne s'éteignent jamais, et ils devaient entretenir leurs lampes dans leur temple. Et ainsi pour les Juifs dans l'esprit, leurs lampes ne doivent jamais s'éteindre mais brûler toujours dans leur temple, et ils doivent les tailler et les entretenir. Et ainsi ils en viennent à être un sacerdoce royal, toujours assidu au service du Seigneur dans le temple, matin et soir, offrant dans l'esprit l'agneau sans tache dans le temple. Ainsi les Juifs dans l'esprit font l'offrande du matin et du soir dans l'esprit de l'agneau, et dans leur temple, lui qui est sans tache, et ils doivent en tout temps offrir en lui. Il y avait des prêtres pour manger les pains de proposition dans le temple, et les pains de proposition devaient toujours être dans le temple sur la table. De même, les Juifs dans l'esprit doivent toujours avoir leur pain dans leur temple pour en manger, et vous êtes une maison spirituelle et un sacerdoce royal pour Dieu. L'encens et les doux parfums devaient brûler dans le temple des Juifs, et ainsi les Juifs dans l'esprit doivent toujours avoir l'encens et les doux parfums qui brûlent dans leur temple. Les Juifs selon la chair ne devaient toucher rien, ni manger rien qui fût impur, pas davantage les Juifs dans l'esprit ne doivent toucher ou manier, ou manger quoi que ce soit d'impur, mais manier le Christ, et se nourrir de lui, qui est pur et saint et net, qui est le pain de vie. Les Juifs du dehors ne devaient suivre et se nourrir d'aucune offrande sinon la leur, et ainsi les Juifs dans l'esprit ne doivent suivre aucune offrande sinon le Christ, et se nourrir de lui qui est le leur. Premièrement, les méchants et les trompeurs, les voleurs et les faux prophètes, et les séducteurs ôtent les bornes des justes et des droits, puis ils font de tous leurs lieux repeuplés un désert, et alors s'élève la puissance du dragon, qui engendre et fait naître des serpents, des vipères et toutes les bêtes impures, et ainsi ils font du monde un désert. Quand ils ont ôté la borne des justes et des droits, alors la vérité, la justice, la droiture et l'équité n'ont plus de place parmi eux, alors ils trompent, et établissent ses propres voies, et y est tous ceux qui ne veulent pas lui obéir. Les Juifs du dehors, dans leurs fêtes établies, louaient le Seigneur avec des trompettes extérieures, et ainsi les Juifs dans l'esprit, à leurs fêtes dans leur temple, en se nourrissant du pain de vie, élèvent leurs trompettes, leurs esprits, en louant le Seigneur Dieu. Or, tout ce que vous appelez la chrétienté croit que Christ est venu, et qu'il est ressuscité, et que Jésus est Christ, le Fils de Dieu. Ainsi donc, maintenant, ils doivent tous le recevoir, marcher en lui et demeurer en lui. Mais vous qui professez les Écritures du Christ, qu'il est venu, cela même que les saints ont professé et dans quoi ils ont vécu, comme les Juifs professaient Moïse et les prophètes, et Dieu, et que Christ devait venir, mais il niait la vie comme vous le faites, et n'y vivez pas plus que vous, mais vous disputez sur les mots, et vous niez la vie et l'esprit du Christ, des prophètes et des apôtres, et c'est la cause pour laquelle vous n'êtes pas en communion et en unité. Le Juif extérieur ne devait pas toucher les morts, ni se nourrir de ce qui était mort de soi-même, car cela le rendait impur selon la loi de Dieu. Et ainsi le Juif intérieur dans l'esprit ne doit pas toucher les morts, ni se nourrir de ce qui meurt de soi-même, mais du Christ, les Juifs sous la loi ne prélevaient pas la dîme des poissons, des porcs et des poulains. Astérisque, offraient-ils ceci en sacrifice au Seigneur dans leur offrande, ou y eut-il jamais un porc, ou des chevaux, ou des poissons, de quelque sorte que ce soit, offert sur l'autel du temple par les prêtres? Le porc n'était-il pas une abomination pour le Seigneur et pour les prêtres? Mais les prêtres, maintenant, ne prennent-ils pas cette offrande abominable, eux qui sont dans l'abomination? Et où les prêtres sous la loi prenaient-ils la dîme des lapins? Devaient-ils être sacrifiés sur l'autel comme offrande? Car les lapins, les poulains et les porcs ne devaient pas être offerts, mais devaient leur être en abomination. Astérisque, les prêtres d'Europe ont insisté pour prendre un dit de tout, en prenant les dîmes juives pour prétexte. Pourtant, la dîme était une ordonnance du sacerdoce lévitique, que Christ a abolie et remplacée par lui-même, et les dîmes des Juifs servaient à soutenir les veuves, les orphelins et les pauvres, non pas seulement les salaires des prêtres et la réparation du temple. Et puisque vous appelez les chrétiens des laïcs, vous qui êtes ministres, et dans quelque charge, et sous quelque vœu ou serment, n'est-ce pas contraire aux apôtres, qui appelaient les chrétiens croyants des saints et des spirituels? Tous les vrais croyants de l'Église ne sont-ils pas de ceux qui sont passés de la mort à la vie, et de ceux qui sont nés de Dieu? L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux anciens Romains, ne les appelle pas des laïcs, comme les Romains appellent maintenant les chrétiens, mais Paul les appelait bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, et qu'ils étaient appelés de Jésus-Christ. Lisez le premier chapitre des Romains, et voyez s'il a appelé les Romains des laïcs. Quand Paul écrivit à l'église des Corinthiens, il les appela des saints par vocation, et l'église de Dieu, et il ne les appelle pas des laïcs. De même, il écrivit aux Galates, à l'église qui s'y trouvait, les appelant frères et non laïcs. Et Paul, quand il écrivit aux Éphésiens, il les appelle des saints et non des laïcs. Et quand Paul et Timothée écrivirent aux Philippiens, aux saints, aux évêques et aux diacres, ils ne disent pas « aux évêques, diacres et laïcs ». Et quand Paul, Sylvain et Timothée écrivirent aux Thessalonians, ils leur dirent que leur Église était en Dieu, le Père du Christ, et les appelèrent frères bien-aimés et non laïcs. Jacques, dans son épître, dit qu'ils étaient frères. Dans son épître, Pierre ne les appelle pas des laïcs, mais plutôt tels qu'eux ayant obtenu une foi également précieuse et bien-aimée. Dans son épître, Jean les appelle petits-enfants, élus très chers bien-aimés, et non laïcs, et Jude non plus, dans son épître, ne les appelle pas des laïcs, mais les appelle appelés et sanctifiés par Dieu le Père. Christ a dit, « Allez dans toutes les nations, et enseignez, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les prêtres et les papistes n'iront guère plus loin pour prêcher et baptiser que leur propre paroisse, où ils sont sûrs de grands revenus, dont ils se sont accordés. Et tenez-vous par tradition venant du Christ et des apôtres que le pape doit porter une triple couronne, n'est-ce pas là la gloire du monde, et non quelque chose venant du Christ ou des apôtres, qui n'étaient pas du monde, et Timothée, ou Tite, ou Pierre, ou l'un quelconque des apôtres, a-t-il porté sur la tête une triple couronne d'or? La couronne du Christ, celle qu'on lui fit, n'était-elle pas d'épines? Vous, ministres de la chrétienté, parce que vous n'êtes pas dans la foi qui agit par l'amour, ni dans l'amour universel de Dieu, vous ne pouvez donc pas édifier la chrétienté dans l'amour de Dieu, ni dans la sainte foi qui agit par l'amour, car l'amour édifie et bâtit, mais votre foi est morte, et ses fruits sont la colère, la discorde, l'envie, et le fait de vous déchirer les uns les autres par la persécution. Une telle persécution a toujours été aveugle, et l'aveugle conduit l'aveugle dans le fossé. Ainsi, vous êtes hors de la foi catholique astérisque et de l'Église catholique, et de l'amour, de la communion et du culte catholique, et de l'Évangile catholique, qui est éternel, car catholique signifie universel. Astérisque, ce n'est pas la foi romaine. La foi catholique est l'unique foi universelle de la véritable Église du Christ, le véritable corps du Christ, dans l'unité de l'Esprit. Au temps de la loi, ils ne devaient pas toucher les morts, s'ils le faisaient, ils étaient impurs, ce qui est une figure pour ceux qui sont dans l'Évangile vivant, qui est immortel, ils ne doivent pas toucher les voies mortes, les doctrines mortes, ni la chair morte et les corps de chair pécheresse, mais toucher le Christ et sa chair. Par conséquent, ne touchez rien d'impur, mais ce qui est vivant et pur, la terre est corrompue par les corps morts, et leur chair la fait empester, les vivants le sentent. Christ est l'autel sur lequel tout ce qui offre à Dieu offre. Cet autel est dans le temple, et Christ est le chemin vers Dieu, et ceux qui éteignent l'esprit en eux-mêmes et chez les autres, et ne le laissent pas s'élever, sont tels que ceux qui gardent le sépulcre du Christ et craignent que le Christ ne ressuscite. L'ivrognerie, la prostitution et les jurons sont les œuvres du péché, et c'est le chemin de l'enfer si vous y persévérez. Et l'enfer béant, la tombe ouvre sa bouche, et la mort et la destruction parlent de la renommée de Dieu, et la sanctue des chevaux, qui est engendrée dans les eaux, crie « donne, donne ». Vous buvez des santé, mais l'ivrognerie et la prostitution sont hors de la crainte de Dieu et détruisent la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. Vous bénissez, mais une vie profane ni le salut, l'état bienheureux. Seigneur, tes enfants aiment ta lumière, mais les enfants des ténèbres la foulant, elle et eux sous leurs pieds. Vous jeûnez, priez et prêchez, et parlez de Dieu, du Christ et des Écritures, mais le Seigneur exigera toutes vos dettes en lesquelles vous vous êtes engagés, car vous avez dépassé vos limites, et ainsi vous êtes tombés dans l'ivrognerie, les jurons, les malédictions, l'orgueil, la convoitise, l'oppression et le fait de ne pas agir justement envers tous les hommes, et le fait de vivre dans la malice, la discorde et l'envie, qui sont les œuvres des ténèbres, et qui détruisent et ravagent et mettent en pièces, mais l'amour édifie et bâtit. Il n'y a qu'un seul berger et un seul troupeau, et les brebis connaissent la voie du berger et le suivent, et il leur donne la vie éternelle, et elles sont toutes conduites par l'Esprit de Dieu et sont les filles de Dieu, et elles ont l'Esprit du Christ, et elles sont à lui, et qu'elles dorment ou meurent ou mangent ou boivent, elles sont au Christ car il est mort pour elles, et les achetées de son sang, et donc elles ne sont pas à elles-mêmes mais au Christ, et ainsi elles doivent le glorifier dans et avec leur corps, leurs âmes et leurs esprits qui sont à lui. Mais dans le monde il y a une multitude de bergers, et ils ont leurs divers troupeaux et enclos, et les bergers se crêlent entre eux, et avec leurs troupeaux au sujet des vivres, des vêtements, des jours et des temps, et tantôt un berger obtient le troupeau, tantôt un autre berger obtient le troupeau, et par ces agissements les troupeaux sont presque mis en pièces par les bergers mercenaires, qui abandonnent les brebis au temps de la persécution, lorsqu'ils ont pris autant de laine qu'ils peuvent sur leurs dos, parce que les brebis ne leur appartenaient pas, et qu'en l'un. Et ainsi les brebis sont ballottées ça et là, et affamées, et chaque berger tond les brebis, et arrache la laine de leurs dos. Mais le Christ donne sa vie pour ses brebis, et demeure avec elles, dans toutes leurs tribulations, persécutions et souffrances. Il souffre et est persécuté dans son troupeau de brebis, lorsque le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis, car elles ne sont pas les siennes. Et vous pouvez voir que, autant il y a de troupeaux dans le monde, autant il y a de bergers qui les connaissent et les gardent dans le monde, que le diable a fait un désert et un lieu désolé, parmi lesquels c'est toujours l'hiver pour les élus. Nous qui sommes instruits par le Christ et connaissons sa voix et le suivons, le Christ est pour nous, dans la vie comme dans la mort, un gain. L'holocauste devait brûler toute la nuit jusqu'au matin sur l'autel, et les offrandes faites par le feu, quiconque les touche doit être saint, Lev 6-9. Tout vrai chrétien doit lire la substance de cela en lui-même. Vous avez imposé aux chrétiens et à la chrétienté un joug que nos ancêtres ont rejeté et qu'ils ne porteraient jamais, et que ne porteront ni ne porteraient ceux qui sont de leur lignée. Toutes vos inventions, images, tableaux, représentations, reliques, images de Dieu et du Christ, des apôtres, des saints et des prophètes, et images des choses dans le ciel et sur la terre, et l'observance des jours du Christ, des apôtres et des saints, fardeau que vous imposez au peuple, que ni le Christ ni les apôtres n'ont imposé, eux qui étaient nos ancêtres. Vous extorquez aux gens de quoi entretenir vos ministres, et vous rendez ainsi l'évangile onéreux, vous êtes ainsi devenu un fardeau pour le peuple et une source de troubles, et ce n'est pas la voie de l'évangile dans laquelle nos ancêtres ont marché. Ceux qui ne veulent pas vous donner de quoi vous entretenir, vous les jetez en prison pour défaut de paiement, ce qui n'était pas la voie des apôtres, et vous y en gardez beaucoup jusqu'à ce qu'ils meurent en prison, et ce sont des gens auxquels vous ne prêchez pas. Ce ne sont pas là de bonnes nouvelles de paix de l'Évangile, mais la guerre, la discorde et le trouble. Ce fardeau, vous le mettez sur nous, ce que nos ancêtres et les apôtres n'ont pas fait, car ils n'étaient pas à charge, mais maintenaient l'Évangile gratuitement et ne faisaient pas commerce des paroles des Écritures. Christ a dit, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et que quiconque a soif vienne gratuitement, sans argent et sans prix. » De plus, toutes vos persécutions au sujet de la religion, du culte, de l'Église et de la foi, et pour des questions de conscience envers Dieu, et votre invention de torture et de chevalet, pour emprisonner et torturer les gens qui ne se conforment pas à votre voix, ce n'était pas la voix des apôtres, ni celle du Christ, et ainsi vous pouvez voir que vous avez perdu la puissance dans laquelle étaient le Christ et les apôtres. Acte 2:10. 10 jours le diable vous jettera en prison, afin que vous soyez éprouvés, ce qui fait 10 ans. Acte 9:5. 5 mois les tourmenteurs devaient tourmenter le peuple, ce qui fait 150 ans. Acte 12:6. La femme, la véritable Église, s'enfuit dans le désert lorsqu'elle fut persécutée par le dragon, et elle devait y demeurer et être nourrie par Dieu 1260 jours, autant d'années. Alors l'Église fausse s'éleva appelée la prostituée, sur la bête à laquelle le dragon, le diable, donna sa puissance, et qui avait pouvoir sur toutes les nations, tribus, langues et peuples, et ils adorèrent la bête, petits et grands, tous ceux dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie, et cette bête devait durer 42 mois, ce qui fait 1260 jours, autant d'années. Acte 13, 3-8, Acte 16-19. La grande ville tomba et fut divisée en 3 parties, et le Turc n'en obtint-il pas une partie, les protestants une autre, le pape une autre. Cette ville est la grande prostituée, la fausse église, et le cri était « Sortez d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ces fléaux, car le fléau, la douleur et le deuil devaient venir sur la prostituée et la perte d'enfants. » Les promesses de Dieu sont toutes accomplies dans la semence Christ, et toutes les promesses s'accomplissent aussi pour la semence méchante, dans les malheurs et les fléaux, dans le jugement contre la semence méchante, qui était la première naissance de mort dont parlent les Écritures. Qu'est-ce donc que les gens regardent tant? N'est-ce pas des mensonges et des plaisanteries vaines, ou de vieilles histoires, et des tours de passe-passe frivoles, que l'esprit léger et aérien a produits, et qui excitent chez les autres l'esprit léger au rire? Ainsi la vanité engendre la vanité, et la légèreté engendre la légèreté, et tel est l'ouvrage que fait l'esprit léger et aérien, pour passer son temps avec des pièces et des spectacles, des jeux et des divertissements, et des propos légers et vains, parmi lesquels le sérieux et la sobriété n'ont point de place. George Fox, Liberté de l'Évangile et la loi royale de l'amour. De Jésus-Christ, à qui tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné, établi au-dessus des lois et des commandements d'Artaxerxès et de Nebuchadnezzar, et au-dessus des Mèdes et des Perses, et des décrets de Darius, étant un témoignage clair et complet contre les persécutions à cause des consciences sensibles. Par George Fox, Jésus-Christ a dit « Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'est donné », Matt 28-18. Lorsque Christ envoya des messagers dans un village des Samaritains pour lui préparer la place, et qu'ils ne le reçurent pas, et lorsque ses disciples Jacques et Jean virent cela, ils dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme l'a fait Élie ?» Remarquez comment Christ use de sa puissance envers ses disciples, qui méritaient d'être repris, Christ se retourna et les reprit, et dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes ». Ici il réprime et arrête la vengeance qui était dans ses disciples contre ceux qui ne voulaient pas le recevoir, et leur dit qu'ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient. Or si ses disciples ne savaient pas de quel esprit ils étaient, et étaient sous la réprimande, eux qui voulaient que le feu descende du ciel pour consumer ceux qui ne voulaient pas recevoir Christ, comment toute la chrétienté sait-elle de quel esprit elle est, elle qui a emprisonné, banni et mis à mort tant de gens au sujet de la religion? Ne sont-ils pas tous sous la réprimande du Christ, et ne connaissant pas leurs propres esprits? Car Christ, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, a dit que la réprimande est pour ceux dont les actions sont faites hors de sa puissance, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour la sauver. Or, remarquez, il s'ensuit donc que ceux qui détruisent la vie des hommes et ne la sauvent pas au sujet de la religion, n'ont pas l'esprit du Christ et n'agissent pas non plus à partir de sa puissance, à qui tout pouvoir dans le ciel et sur la terre est confié. Aussi dans Matt 13, 24-30, où vous pouvez voir que Christ, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, use de sa puissance envers des serviteurs empressés, qui voulaient arracher l'ivraie, ce qui n'était pas leur place mais celle des anges. Les propres paroles de Christ sont les suivantes, dans sa parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Remarquez, l'ivraie semée pendant que les hommes dorment quand l'herbe eut poussé et eut donné du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit, un ennemi a fait cela. Le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Mais il dit, non, de peur qu'en voulant arracher l'ivraie, vous n'arrachiez en même temps le blé avec elle. Ici, Christ est juge en matière de religion, lui à qui tout pouvoir dans le ciel a été donné, car vous pouvez voir ici qu'il ne donne pas à ses serviteurs empressés l'autorisation d'arracher l'ivraie, de peur qu'ils n'arrachent aussi le blé. Mais il les arrête par ses paroles, disant, laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler, et amassez le blé dans mon grenier. Ici, Christ arrête ses serviteurs empressés. Christ a prévu le temps où les hommes dormiraient, et alors l'ennemi viendrait et sèmerait son ivraie, et il a aussi vu que beaucoup voudraient arracher, ce qui n'était pas leur place, et n'avaient pas de mission, et n'ont aucune mission de lui jusqu'à ce jour, et cela, il les arrête. Et dans Matt 13, 26-42, où les disciples vinrent à Christ en disant, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Jésus répondit et leur dit, le Fils de l'homme est celui qui sème la bonne semence. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Mais l'ivraie, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui la sème, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Et l'ivraie est ramassée pour être brûlée au feu. Ainsi en sera-t-il à la fin de ce monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils rassembleront de tous les royaumes tous ceux qui scandalisent et commettent l'iniquité. Or remarquez, Christ, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, ne peut-il pas, par la puissance de sa parole, arrêter tous les persécuteurs empressés dans le monde, qui est appelé le champ, où la bonne et la mauvaise semence sont semées? Car ne dit-il pas que l'ivraie et le blé doivent croître jusqu'à la moisson, et c'est la fin du monde? Ceux qui voudraient moissonner et rassembler avant la fin du monde, ne s'occupent-ils pas à s'opposer au commandement et à la puissance du Christ? Car puisque Christ a dit, il enverra ses anges, et quand? Avant la moisson, non, ou avant la fin du monde? Non, et ces anges sont ses moissonneurs, ainsi ce ne sont pas les hommes au milieu du monde qui doivent être les moissonneurs et les ramasseurs de l'ivraie, mais ce sont les anges du Christ. Quand donc est le temps de la moisson, le temps de la récolte qui est la fin du monde, et qui sont les moissonneurs, les anges. Ainsi donc c'est l'œuvre des anges et non celle des hommes. Ainsi il est clair ici que Christ est le juge en matière de religion, entre l'ivraie et le blé, lui qui envoie ses anges. Car Christ commande aux hommes de s'aimer les uns les autres et d'aimer leurs ennemis. Ainsi, ceux qui ne s'aiment pas les uns les autres, ni leurs ennemis, n'obéissent pas au commandement du Christ, à qui tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné. Car c'est là son commandement royal, « Aimez-vous les uns les autres, c'est à cela que l'on reconnaît que vous êtes les disciples de Jésus-Christ. C'est le commandement que Jésus-Christ a donné aux hommes et aux femmes, lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, que les hommes s'aiment les uns les autres et aiment leurs ennemis, et que les anges soient moissonneurs. » Christ a dit, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, car Christ a vu qu'il y aurait des gens qui haïraient sa semence, et des maudisseurs et des maltraitants, et des persécuteurs qui arracheraient le blé, le croyant ivraie, et qui n'avaient point un tel commandement du Christ. » Christ a dit, Jean 15, 12, 17, « Lui à qui tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné, voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. » La chrétienté n'a-t-elle pas rejeté derrière son dos ce commandement? Se sont-ils aimés les uns les autres, ou ont-ils observé le commandement de celui qui a tout pouvoir? Au lieu de cela, ils se sont persécutés les uns les autres, et ainsi ils ont rejeté le commandement de Jésus, comme les Juifs ont rejeté la loi de Dieu, et n'ont pas marché en elle, car en cela, dit Christ, mon Père est glorifié quand vous portez beaucoup de fruits, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez donc dans mon amour. Ainsi, les chrétiens ne demeurant pas dans l'amour du Christ dont il les aime, ils ne peuvent porter de fruits, ils ne peuvent donc glorifier le Christ ni le Père, car si vous gardez mes commandements. Ainsi, les chrétiens peuvent voir ici que ceux qui ne demeurent pas dans l'amour, mais dans l'inimitié, n'ont pas gardé les commandements du Christ. Et vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et voici mon commandement que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ainsi, il est clair que ce qu'on appelle chrétiens, qui ne s'aiment pas les uns les autres, ne sont pas des amis de Jésus-Christ, et ne tiennent aucun compte de sa puissance ni de sa doctrine. Remarquez encore les paroles du Christ lorsqu'il a dit « Souvenez-vous des paroles que je vous ai dites, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais maintenant, chrétiens, vous qui persécutez, vous êtes hors de la pensée du Christ, de sa puissance et de son commandement, lui qui a dit, aimez vos ennemis et aimez-vous les uns les autres ainsi, ceux qui persécutent n'ont gardé ni les paroles du Christ, ni celles des apôtres. Ainsi, vous tous qui vous professez chrétiens, et revendiquez Jésus-Christ, et dites que Dieu l'a envoyé, vous ne devez pas vous persécuter les uns les autres, ni persécuter vos ennemis. Mais le commandement du Christ à qui tout pouvoir dans le ciel et sur la terre est donné est pour vous. Aimez-vous les uns les autres, car cela édifie le corps et vainque le mal. Telle est la loi d'amour qui doit être parmi les chrétiens. C'est la loi royale de celui qui a tout pouvoir, qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Cet amour supporte tout, endure tout, espère tout, ne s'irrite pas, car ce qui s'irrite se précipitera dans des paroles et des actes, l'inimitié et la persécution, la malice et la haine, qui sont les œuvres de la chair, toutes condamnées par la loi d'amour. Ainsi, en gardant la loi d'amour, vous tenez en bas ceux qui voudraient s'irriter. Ainsi l'amour surmonte l'inimitié, et la lumière surmonte les ténèbres, et la justice surmonte l'injustice, comme la vie surmonte la mort et sa puissance, et ainsi le bien surmonte le mal. Où est cette vie universelle et cet amour universel parmi vous, chrétiens, par lesquels vous pourriez sortir de votre esprit étroit et coléreux pour entrer dans un esprit aimant et universel? Et Christ a enseigné à ses disciples chrétiens à prier, lui à qui tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné, et c'est une prière commune à toute la chrétienté, car tous peuvent la dire, et l'on dit en parole, « Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Cette prière différait de celle des pharisiens, qui se tenaient à prier dans les... Oh, qu'ils viendraient à ce par quoi ils pourraient voir leur aveuglement et la chaîne sous laquelle ils sont. Car si les chrétiens transgressent et offensent les uns les autres dans leur religion et leur culte, les papistes contre la prière commune, et la prière commune contre les papistes, ils doivent se pardonner les uns aux autres. Et les presbytériens, baptistes, indépendants, luthériens, calvinistes, ne professez-vous pas tous le Christ et Dieu qui l'a envoyé? Ne dites-vous pas tous la prière commune du Christ et ne vous êtes-vous pas offensés les uns les autres en matière de religion, de culte et d'église? Devez-vous pas tous vous pardonner les uns les autres, selon la prière du Christ, lui qui a tout pouvoir dans le ciel, Et si vous demandez au Seigneur d'être pardonné comme vous pardonnez, et que vous ne pardonnez pas, alors vous ne demandez aucun pardon. Car remarquez vos paroles, vous demandez « pardonne-nous » comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ainsi remarquez le mot « comme vous pardonnez, ainsi vous voudriez être pardonné et pas autrement, et ainsi comme vous persécutez, jetez en prison et bannissez les uns les autres. Ceux de la gauche sont plus prompts à prendre nourriture et boisson au Christ et à ses petits qu'à leur en donner, et à les jeter en prison jusqu'à la mort pour leur ventre, mais ce sont de ceux dont l'apôtre parle, qui ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Et Christ dit encore, « J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Et ceux de la gauche répondront et diront au Christ, « Quand avons-nous vu ayant faim ou soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Écoutez la réponse du Christ, « En tant que vous ne l'avez pas faite à l'un de ses plus petits, vous ne l'avez pas faite à moi. » Donc, entendez la sentence de celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, contre ceux de la gauche qui sont les boucs, râlez-vous-en dans le châtiment éternel, mais les justes dans la vie éternelle. Or ceux de la gauche, qu'ils soient appelés chrétiens ou quoi que ce soit, sont plus enclins à faire des hommes des étrangers qu'à accueillir des étrangers, eux qui les bannissent de leurs femmes et de leurs familles, et de leur terre natale, et plus enclins à dépouiller et à rendre malades qu'à vêtir et visiter, et à emprisonner qu'à visiter en prison, et ceux qui font ainsi oppriment la semence de Dieu en eux-mêmes, d'où coule l'amour de Dieu. De tels hommes font ce qu'ils ne devraient pas faire, car ils devraient s'aimer les uns les autres, et c'est l'œuvre des anges de moissonner à la récolte, qui est la fin du monde, et non celle des hommes. Seul le Christ doit juger en matière de religion. Ainsi juge-t-il, comme vous pouvez le voir par la parabole des talents, dans laquelle ceux qui avaient fait fructifier leur talent eurent leur récompense, mais celui qui n'avait pas fait fructifier son talent était un serviteur inutile, qui devait être jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et vous qui dites, quand cela arrivera-t-il? La réponse est, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ainsi ici, on voit clairement que Christ est le seul juge en matière de religion, et pour séparer les brebis d'avec les boucs. Ainsi, ce n'est pas l'homme, dans sa propre raison obscure, qui rejette derrière son dos la loi de Jésus-Christ, qui est « s'aimer les uns les autres », laquelle devrait être sa règle, car Christ doit être juge en matière de religion. Comme Christ l'a dit, « Lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, bienheureux les doux, car ils hériteront la terre, alors ceux qui ne sont pas doux n'héritent pas cette bénédiction. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, alors ceux qui ont faim et soif d'injustice, et boivent l'iniquité comme un bœuf boit l'eau, et persécutent le juste à cause de sa justice, n'obtiennent pas cette bénédiction. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Maintenant, les cruels, les persécuteurs, les sans miséricorde, n'obtiennent pas cette bénédiction. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ainsi, les impurs de cœur, qui aiment le mal, haïssent la lumière, et aiment les ténèbres plus que la lumière, ne viennent pas à participer de cette bénédiction, ni à voir Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Ceux qui suscitent la discorde parmi le peuple en discorde pour leur ventre, et pour les choses extérieures ne sont pas des enfants de Dieu, et n'ont pas cette bénédiction. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors quelle bénédiction ont les persécuteurs, quel royaume est le leur? Jugez-en, bienheureux serez-vous quand les hommes vous outrageront et vous persécuteront, et diront faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi et de l'Évangile, et il s'ensuit alors que les diffamateurs et les persécuteurs n'ont pas cette bénédiction. Question, quel mal pouvait-on trouver, dans quelque pouvoir, tant passé ou présent, chez le peuple appelé Quakers, sinon au sujet de leur croyance au Christ et à leur Dieu, pour laquelle ils ont été persécutés, bannis et emprisonnés jusqu'à la mort? Mais ici vous pouvez voir que Christ, qui avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, a vu qu'il y aurait des persécuteurs, et des gens qui diraient faussement toutes sortes de mal contre son peuple à cause de lui, mais il encourage les persécutés et leur dit « Réjouissez-vous et soyez dans une joie extrême, car grande est votre récompense dans les cieux, ainsi vous pouvez voir que leur récompense ne vient pas de la terre. Car ainsi a dit Christ, ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous, afin de leur faire savoir que la paix. Néanmoins, Christ les encourage en disant qu'ils sont le sel de la terre, ses enfants, et que le sel rend la terre savoureuse, et qu'ils étaient la lumière du monde, et qu'une ville située sur une colline ne peut être cachée, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être cachés aux persécuteurs, et à ceux qui parlaient faussement contre toutes sortes de mal à cause de lui. En outre, Christ dit pour les encourager que la lumière doit être mise sur un chandelier, et non sous un boisseau pour être cachée, mais pour éclairer toute la maison, car ils étaient la lumière du monde, et il leur dit que leur lumière luise devant les hommes, afin qu'ils puissent contempler et voir leurs bonnes œuvres, et glorifier leur Père qui est dans les cieux. C'était pour tenir leurs yeux au-dessus de ceux qui les persécutaient et disaient toutes sortes de mal contre eux. Ainsi vous pouvez voir que les prophètes et les enfants du royaume n'ont pas souffert comme des hommes justes aux yeux des persécuteurs, car Étienne n'a pas souffert comme un homme juste aux yeux de ses persécuteurs, mais comme un blasphémateur, Actes 7:51-59. Jésus-Christ, aux yeux des prêtres persécuteurs, des scribes et des pharisiens, n'a pas souffert de comme un homme juste, mais fut tenu pour un trompeur, et les principaux prêtres se moquaient de lui, hochant la tête contre lui, et c'est la manière de l'esprit persécuteur aujourd'hui. Mais Christ a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Or vous, chrétiens qui persécutez, n'êtes-vous pas si aveugles que vous ne savez pas ce que vous faites ?» Quand les grands juifs, persécuteurs, professants, criaient contre Christ, « Crucifie-le, crucifie-le », rien d'autre que la mort ne leur suffisait, Christ n'a-t-il pas dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient, afin que je ne sois pas livré aux juifs, mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici, ce qui montre que le royaume du monde est pour ceux qui combattent. » Christ, qui avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, ne se défendit pas contre tous ses persécuteurs, prêtres moqueurs et professants. De même, vous pouvez voir que les plus grands persécuteurs professants dans la chrétienté se moquent maintenant de ceux qu'ils persécutent. De tels croyants persécuteurs ont rejeté derrière leur dos la loi de Jésus. Comme Christ a prié son Père de pardonner à ses persécuteurs, ainsi font maintenant les Quakers, qui ont l'esprit du Christ, bien qu'il eût tout pouvoir donné et qu'il eût pu prier son Père d'envoyer des légions d'anges pour le défendre. Vous lisez dans les Écritures que les grands docteurs professant des Écritures, les Juifs, disaient que Christ était un trompeur, qu'il était fou, qu'il avait un démon, et que par le prince des démons il chassait les démons. Christ savait que c'était pour cause de religion, et à cause de sa vertu et de sa filiation, et bien qu'il eût tout pouvoir dans le ciel et sur la terre donné. Pourtant il ne donna aucune loi contre eux pour les faire punir, bien qu'ils eussent voulu le lapider, et qu'ils prissent des pierres pour le lapider, lui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il ne donna aucun commandement ni aucun mandat pour contraindre qui que ce soit à une bonne conduite, car il souffrit pour sa bonne profession et son témoignage. Ô peuple, vous qui vous appelez chrétiens, levez les yeux, afin que Christ soit votre exemple et suivez-le. Ne suivez pas l'homme de péché, qui était un persécuteur, un geôlier, et un meurtrier dès le commencement, car la preuve, vous pouvez la voir dans l'Apocalypse, où il est dit, « Le diable jettera quelques-uns de vous en prison 10 jours. » Pierre dit au Christ, « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, et je lui pardonnerai jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Ô vous qui vous appelez chrétien, combien en cela, vous êtes loin d'avoir la pensée du Christ. Que vous êtes étriqués, bornés et d'un esprit impatient, vous qui vous persécutez les uns les autres, et ne pouvez vous supporter, vous pardonner, être patients les uns envers les autres, et vous aimer les uns les autres. Si le Christ, après avoir parlé à Pierre, dit une parabole, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs, et quand il commença à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Mais comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que le paiement fût fait. Le serviteur se jeta à terre et dit, Seigneur, aie pitié de moi, et je te paierai tout. Et le maître de ce serviteur émut de compassion. N'est-ce pas là l'image des juifs et des chrétiens professants, envieux, sans miséricorde et impatients, si passionnés et furieux, jetant en prison pour la moindre chose, oui, et même certains à qui l'on ne doit rien, et qui pourtant ne les mettent pas au travail, comme on le voit chez les prêtres et les évêques. Quand les autres serviteurs virent ce qui s'était passé, ils furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors le maître fit appeler ce serviteur. « Méchant serviteur, dit-il, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'avais eu pitié de toi ?» Et, dans sa colère, son maître le livra au geôlier pour être tourmenté, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « Ainsi, dit Christ, mon Père céleste vous traitera de la même manière, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Vous qui êtes appelé chrétien et portez ce nom, vous qui êtes si prompt, si disposé à prendre votre frère à la gorge et à le traîner en prison jusqu'à ce que votre volonté soit satisfaite, et à faire de vos frères des transgresseurs quand ils ne le sont pas, et à les jeter en prison quand vous n'avez ni loi ni fondement, sinon de satisfaire vos volontés, considérez la sentence du Christ, qui a dit que son Père céleste vous livrera au bourreau jusqu'à ce que vous lui ayez payé ce qui lui est dû, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. Non, beaucoup d'entre vous ne peuvent pas pardonner ce qui n'est en réalité pas une offense, mais, avec colère et envie, cherchent vengeance, et pour cela, voudriez-vous ôter la vengeance de la main de Dieu, lui qui a dit « À moi la vengeance, et je rendrai. » Quiconque fait le mal encourra une peine pour le mal qu'il fait, Dieu ne fait exception de personne, et cela pourrait vous convaincre, laissez croître ensemble l'ivraie et le blé jusqu'à la moisson, car Dieu donnera à chacun sa récompense selon ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Que toute la chrétienté renonce à cette loi de se persécuter mutuellement et y mette fin, mais qu'elle prenne garde à cette loi que Jésus-Christ a commandée, lui qui a toute puissance dans le ciel et sur la terre, la loi de l'amour et le grand commandement, de s'aimer les uns les autres et d'aimer ses ennemis, et c'est cela qui doit unir toute la chrétienté dans une uniformité et une conformité à son chef, Christ Jésus, son législateur et celui qui donne les commandements. Dans Matthieu 22, 36-40, le Christ a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Christ dit cela aux docteurs de la loi lorsqu'ils vinrent le prendre au piège par leurs questions, comme beaucoup le font aujourd'hui envers les enfants de son royaume. Voyez donc combien vous êtes loin du but, vous qu'on appelle chrétiens, de la loi et des prophètes, dans la pratique de la doctrine du Christ, car si vous aimiez vos prochains comme vous-même, comment pourriez-vous emprisonner? Comment pourriez-vous bannir? Comment pourriez-vous dépouiller les biens? Comment pourriez-vous brûler? Comment pourriez-vous pendre vos prochains? Comment pourriez-vous aimer et servir Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, et détruire vos semblables, œuvres de ses mains, pour des questions de religion et de culte rendus à Dieu, que vous prétendez aimer? Bien que vous professiez tous Dieu et le Christ, vous vous détruisez pourtant les uns les autres au sujet de votre religion et de votre culte. Cela est contraire à son commandement, à lui qui a toute puissance dans le ciel et sur la terre. Cela est contraire à son commandement, qui est de s'aimer les uns les autres et d'aimer ses ennemis, et contraire à sa loi d'amour, et contraire à sa doctrine et à son exemple, lui qui n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour la sauver. Le Christ reprit sévèrement ceux qui voulaient qu'on détruisît la vie des hommes, et il dit à tous, « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fît. » Notez cette loi royale et ce commandement, et ne les rejetez pas du milieu de vous, car vous ne voudriez pas qu'on vous persécute ou qu'on vous emprisonne. Voudriez-vous qu'on vous bannisse et qu'on vous mette à mort pour votre religion et votre culte? Voudriez-vous que quelqu'un vous dépouille de vos biens, vous arrache à vos familles, vous tienne en prison jusqu'à la mort, pendant que vos femmes deviennent veuves et vos enfants orphelins de père, pour votre religion? Donc ce que vous ne voudriez pas que les hommes vous fassent, ne le faites pas aux autres, car la loi royale de la liberté ne fait exception de personne. Ainsi faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent, et cela maintient tout dans une juste balance et un poids équitable. Observez donc la loi royale de la liberté. Les deux fils de Zébédée, lorsque leur mère vint avec eux vers le Christ et lui demanda que ses deux fils siégeassent, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, dans son royaume. Quand les 10 autres disciples l'apprirent, ils furent indignés contre les deux frères. Vous pouvez voir ici ce qui causa l'indignation, qu'un disciple soit au-dessus d'un autre. Mais Jésus, qui a toute puissance dans le ciel et sur la terre, pour ôter ce scandale, éclaircir toute chose et tout arrêter, appela les disciples auprès de lui et dit, « Vous savez que les princes des nations dominent sur elles, et qu'on les appelle seigneurs bienveillants, mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Et c'était pour que les ministres de l'Évangile soient des frères égaux, et n'exercent pas domination et autorité les uns sur les autres en matière de religion et de foi, car ce sont les nations qui exerçaient la seigneurie. » Pour confirmer cela, il dit, « Que celui qui voudra être grand parmi vous soit votre serviteur, et le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour tous, et ne vous faites pas appeler par les hommes rabbis, car un seul est votre maître, le Christ, et vous êtes tous frères, et ainsi, ne pas être appelé seigneur comme les nations. » Le Christ dit, par manière de prophétie, que les Juifs et d'autres vous tueraient, vous crucifieraient, vous flagelleraient dans les synagogues, et de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang juste répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et donc sur qui doit retomber tout le sang juste qui a été versé dans toute la chrétienté au sujet de la religion, depuis les jours du Christ et des apôtres, par ceux qui ont manifesté l'esprit des Juifs en flagellant dans vos synagogues, et de lieu en lieu, ce que le Christ a envoyé parmi vous. Le Christ n'a-t-il pas dit, comment pouvez-vous, vous qui suivez de telles pratiques, lui qui vous appelait une race de vipères, échapper à la damnation de l'enfer, et c'est pourquoi il a dit, vous rendez témoignage que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. N'est-ce pas la même chose qu'on peut dire de vous qui persécutez aujourd'hui? Témoignez que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué le Christ et les apôtres, ces témoins, ces saints et ces martyrs, qui ont gardé le témoignage de Jésus depuis les jours des apôtres, et que vous comblez la mesure de vos pères. Le Christ n'a-t-il pas dit, ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, Combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu, voici, vos maisons vous sont laissées désertes. Jérusalem, n'était-elle pas le lieu de profession le plus élevé, où vivaient ses persécuteurs, meurtriers et assassins des prophètes du Seigneur? Que dire de la chrétienté et de ses lieux de culte les plus élevés? Regardez tant chez les papistes que chez les protestants, combien ont-ils tué et persécuté de ceux qui leur furent envoyés par le Christ? Pensez-vous que le Christ ne pleure pas sur vous, vous que par là vous transpercez chaque jour? Et si les maisons des persécuteurs à Jérusalem devaient être laissées désertes, que deviendront vos maisons, vous qui vous appelez chrétiens et que l'on trouve pourtant persécuteurs? Pensez-vous que les maisons de tous les persécuteurs ne seront pas laissées désertes, quand bien même ils seraient de très hauts professeurs des Écritures, leurs maisons ne seront-elles pas laissées désertes de Dieu et du Christ? Lisez Matthieu 23. Et le Christ ne dit-il pas, « Si tu as quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande, et ainsi tous les chrétiens du monde entier ne devraient-ils pas se réconcilier les uns avec les autres avant d'offrir leurs dons à Dieu et au Christ, dont la loi est qu'ils s'aiment les uns les autres ? » Et puisqu'il est dit, en 1 Pé 2:17, « Honorez tous les hommes, aimez la fraternité, craignez Dieu et honorez le roi. Remarquez, craindre Dieu, ce n'est pas l'attrister ni l'offenser, mais lui être soumis et le révérer. Honorez tous les hommes, et honorer le roi, c'est tenir le roi et tous les hommes en estime, et estimer le roi, ce n'est pas faire du tort au roi, ni à aucun homme, et cela ruine toute persécution et les persécuteurs, car comment peuvent-ils dire qu'ils estiment le roi, ou qu'ils estiment un homme quelconque s'ils le persécutent ? Ainsi, puisque tous les vrais chrétiens sont frères en Christ Jésus, ils doivent aimer la fraternité, et ainsi garder la loi et le commandement du Christ, et qu'un chrétien en persécute un autre au sujet de la religion et du culte, ce n'est pas aimer la fraternité. Au conseil des grands juifs professants, lorsque les apôtres furent amenés devant le conseil et les grands prêtres, ceux-ci leur ordonnèrent de ne plus prêcher au nom de Jésus. Les apôtres répondirent, « Jugez vous-même s'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » L'apôtre ajouta, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir en le pendant à un bois, et Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Et l'apôtre dit, « Nous sommes témoins de ces choses. » Quand le conseil entendit ces paroles, eux qui avaient auparavant tué le Fils, ils tinrent conseil sur la manière de faire mourir les apôtres. Ici chacun peut voir cet esprit de persécution et de meurtre qui a persécuté en tous âges. Vous pourriez dire aujourd'hui, si nous avions vécu au jour du Christ et des apôtres, nous ne les aurions pas tués. Ainsi ceux qui persécutent peuvent voir qu'ils sont dans le même esprit que les persécuteurs l'étaient au jour des apôtres, et non dans l'esprit du Christ et des apôtres. Mais alors, lorsque l'on délibérait au conseil pour tuer les apôtres, un homme se leva, un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple. Il ordonna de faire sortir les apôtres un instant, et leur dit, « Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire au sujet de ces hommes », puis il les convainquit par des raisons, comme en Actes 5, 33-41. « Laissez-les, dit-il, car si ce dessein ou cette œuvre vient des hommes, elle se réduira à rien, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la renverser, de peur qu'on ne vous trouve peut-être combattre contre Dieu. » Ainsi le conseil et le grand prêtre suivirent l'avis de Gamaliel et firent venir les apôtres qu'ils avaient fait battre et leur commandèrent de ne plus parler au nom de Jésus. Pourtant les apôtres s'en allèrent, se réjouissant d'avoir été jugés dignes de souffrir pour son nom. Et ensuite les apôtres allèrent et enseignèrent chaque jour dans le temple, et de maison en maison, Christ Jésus. Aujourd'hui, certains diraient que les apôtres avaient attiré les souffrances sur leur propre tête, et qu'ils l'avaient fait pour provoquer les magistrats, comme certains l'ont dit de nos jours. Vous pouvez voir que ce conseil persécuteur, bien qu'il eût suivi Gamaliel, persécuta néanmoins les apôtres. Ce qu'on appelle chrétiens, dans la chrétienté n'ont-ils pas manqué d'un Gamaliel parmi eux, pour les modérer et les arrêter lorsqu'ils bannissaient ? Tuait, brûlait, emprisonnait et dépouillait les biens. Car ce Gamaliel était un juif, et les chrétiens se croient au-dessus d'un juif. Mais où est parmi vous l'esprit de Gamaliel, vous qui dites, « Si cela est de Dieu, cela subsistera », montrant qu'il ne savait pas si cela était de Dieu ou non. Où est dans la chrétienté la prudence de Gamaliel, « Laissez-les, retenez-vous, si cela est de Dieu, cela subsistera, si c'est l'œuvre des hommes, cela se réduira à rien. Si cela est de Dieu, vous ne pouvez la renverser. » Prenez donc garde de peur d'être trouvé combattre contre Dieu. Qu'est-il donc advenu de tous les Juifs qui furent trouvés combattre contre Dieu et le Christ? Qu'est-il advenu du pape et de toutes ses puissances persécutrices avant vous? Voyez donc, s'il ne manque pas parmi vous un esprit et un conseil à la Gamaliel, pour modérer l'esprit persécuteur, considérez le conseil de Gamaliel en Actes 5. Car en vérité, les vrais chrétiens sont au-dessus de Gamaliel, puisqu'ils savent que ce qu'ils prêchent est de Dieu, tandis que le modéré Gamaliel, dont l'esprit est au-delà de l'esprit qui est dans la chrétienté, cria : Si cela est de Dieu, vous ne pouvez la renverser, et ainsi les arrêta dans leur persécution violente. Les prêtres et évêques chrétiens n'ont-ils donc pas besoin d'un tel Gamaliel pour les modérer et les régler, et leur tenir les rênes afin qu'ils n'aillent pas plus avant dans la persécution ? L'apôtre ne dit-il pas que les chrétiens ne doivent pas se mordre les uns les autres, de peur de se dévorer et de se consumer les uns les autres, mais qu'ils doivent s'aimer les uns les autres ? L'amour accomplit la loi du Christ Jésus, qui est la loi de l'amour, car la loi de l'amour conserve, et s'ils gardent la loi de l'amour, ils ne se mordront pas, ne se consumeront pas, ne se persécuteront pas, et ne se dépouilleront pas les uns les autres, comme ils l'ont fait. L'apôtre disait aux chrétiens des premiers temps, avant l'apostasie, « Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais spirituelles, puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » 2 Cor 10:4-5. Maintenant, remarquez, les forteresses, les hautes imaginations et les pensées élevées n'étaient pas abattues par des armes charnelles, ni ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, mais par des armes spirituelles. Il est donc clair ici qu'un chrétien ne persécutait pas un autre avec des armes charnelles, car leur guerre n'était pas selon la chair, et leur lutte n'était pas contre la chair et le sang. Ce qui donne la connaissance de Dieu, c'est la lumière qui brille dans le cœur. Depuis les jours des apôtres, au lieu d'abattre les imaginations et les pensées élevées, et d'amener à l'obéissance du Christ ce qui s'élève, ce qui est l'œuvre de l'Esprit, les persécuteurs ont lutté contre la chair et le sang, et ont combattu selon la chair, n'ayant pas la puissance qu'avaient les apôtres. Ainsi ils ont perdu la guerre et les armes des apôtres, qui étaient spirituelles, et les ont remplacées par des armes charnelles. L'apôtre parlait aussi aux Éphésiens, chrétiens des premiers temps, disant « Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, et revêtez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » C'était l'armure de Dieu, non celle des hommes, ayant vos reins saints de vérité, le plastron du salut, les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, et prenant le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant, et prenez le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Remarquez, telles étaient les armes des chrétiens des premiers temps, avec lesquelles ils combattaient et luttaient contre les principautés et les puissances, les dominateurs des ténèbres de ce monde, et les méchancetés spirituelles dans les lieux élevés. Car, disait-il, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il est donc manifeste ici que les chrétiens primitifs n'employaient pas d'armes charnelles, de gourdins et de bâtons, comme la troupe de Judas, pour persécuter et traîner en prison les uns les autres, ou ceux qui étaient d'une autre opinion que la leur, ni pour les bannir. Car s'ils l'avaient fait, ils auraient dû user d'armes charnelles et lutter contre la chair et le sang. Ainsi, contre la méchanceté spirituelle, ils luttaient avec des armes spirituelles, armes dont les chrétiens apostats ont dégénéré, et c'est pourquoi ils ont pris des armes charnelles. Nous savons, et vous devriez savoir, que le bouclier de la foi, le plastron de la justice, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, les pieds chaussés de l'évangile, et la vérité pour ceinture, ce sont là les armes spirituelles, et telle est l'armure de Dieu que les chrétiens des premiers temps utilisaient. Par elle, ils ne luttaient pas contre la chair et le sang, et ne faisaient pas la guerre selon la chair avec des armes charnelles. Ceux qui, depuis les jours des apôtres, ont fait la guerre selon la chair avec des armes charnelles au sujet de la religion et de l'Église, sont dans cet esprit et cette puissance contre lesquels les apôtres et les chrétiens primitifs combattaient. Ceux qui font la guerre dans la chair ont les Écritures dans leur esprit charnel, combattant et luttant contre la chair et le sang, et ils sont jugés et repris par les paroles des apôtres et des chrétiens primitifs. Aux chrétiens des premiers temps, la doctrine des apôtres enseignait qu'ils ne devaient pas se venger eux-mêmes, mais plutôt laisser place à la colère, car la vengeance est à moi, dit le Seigneur, et je rendrai. Ils devaient donc rechercher la paix avec tous les hommes, et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur, ne pas rendre le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, mais au contraire bénir, sachant qu'ils y sont appelés, afin d'hériter la bénédiction. 1 Pétrus 3:9. Ils devaient vaincre le mal par le bien, et ce faisant, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Donc, si possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes, ne rendez à personne le mal pour le mal. Maintenant, Jean, vous pouvez voir comment cette doctrine et cette pratique des chrétiens primitifs ont été mises de côté dans la chrétienté par ceux qui ont une apparence de piété mais en renient la puissance, dont il faut se détourner, eux qui ont rendu le mal pour le mal et se vengent, comme 2 Tim 3:5. L'apôtre a dit, Toute âme doit être soumise à l'autorité supérieure, remarquez, l'âme est immortelle et le pouvoir l'est aussi. Car il dit, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent sont ordonnées de Dieu, et celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu. Ainsi l'autorité ne doit pas être décriée ni combattue, étant ordonnée de Dieu, l'âme doit lui être soumise, car les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu donc ne pas craindre l'autorité? Fais ce qui est bien, et tu en recevras des éloges. Remarquez. Cette autorité n'est pas contre le bien, mais contre le mal. Elle n'est pas une terreur pour le bien, mais pour le mal. Le bien reçoit l'approbation de l'autorité et ne la craint pas, mais le mal la craint, et elle lui est une terreur, car il est ministre de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Car il est ministre de Dieu, pour exercer la vengeance et la colère sur celui qui fait le mal, mais non sur celui qui fait le bien. Ainsi il établit ici une distinction entre le bien et le mal, l'autorité supérieure est une louange pour le bien. C'est pourquoi nous devons être soumis, non seulement par crainte de la colère, mais encore par conscience, c'est-à-dire être soumis à l'autorité qui approuve le bien et effraie le mal. Or, lorsque des magistrats agissaient contrairement au pouvoir, comme vous pouvez le lire dans l'Écriture ordonnée par Dieu, alors Dieu envoyait ses prophètes et ses serviteurs pour crier contre les corruptions des magistrats, non contre le pouvoir que Dieu avait ordonné. Et si ces magistrats ne revenaient pas au pouvoir, vous pouvez lire combien de fois Dieu les renversa. Vous pouvez voir souvent dans les Écritures de tels magistrats, qui ont tourné l'épée contre les justes et laissé les coupables en liberté, ne faisant aucune différence entre le précieux et le vil. Pour cette raison, nous avons payé nos taxes et nos redevances, donc l'impôt à qui l'impôt, l'honneur à qui l'honneur, la crainte à qui la crainte. Nous n'avons pas manqué à notre part. Ils ont eu leur tribut, et les magistrats leurs taxes et leurs redevances, bien qu'ils aient tourné leur épée contre nous, contre le bien, tandis que les ivrognes, les jureurs et les malfaiteurs étaient mis en liberté. Nous n'avons pas manqué à nos devoirs, bien qu'ils aient manqué aux leurs, mais nous les laissons tous au Seigneur pour plaider avec eux tous. L'apôtre dit aux chrétiens, « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car l'amour accomplit la loi. Ainsi ceux qui ne s'aiment pas les uns les autres, et sont hors de l'amour, ne remplissent manifestement pas la loi, mais la transgressent. Les chrétiens ne sont-ils pas de grands débiteurs en cela ? » L'apôtre a dit, « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage, tu ne convoiteras point. Si les quelques autres commandements, ils se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc clair que cette autorité supérieure, à laquelle les ministres de Dieu sont assidus continuellement, n'est pas contre la liberté des vrais chrétiens et ne s'empare pas des gens en matière de religion et de culte, mais de ceux qui tuent, commettent adultère, volent et convoitent. Ici il n'est rien dit de cette autorité supérieure se mêlant des différences de religion, ni d'être une terreur pour eux mais pour les malfaiteurs, tandis que cette autorité supérieure est une louange pour tous qui reconnaissent Dieu, professent Christ Jésus et vivent de sa vie. Or l'apôtre qui a dit « L'impôt à qui l'impôt, et la taxe à qui la taxe, parlez-là des magistrats, afin qu'ils aient ce qui leur est dû. » Cela ne concerne pas les dîmes des prêtres, car l'apôtre s'est clairement prononcé contre les dîmes, disant « La loi par laquelle le sacerdoce était établi a été changée, et le commandement qui donnait les dîmes a été abrogé, Epset, et il prêchait un autre sacerdoce, Christ Jésus, élevé au-dessus des cieux. » Or, puisque l'apôtre a dit « L'amour ne fait point de mal au prochain, et l'amour est l'accomplissement de la loi, cela le garde de tuer, de voler, de commettre adultère et de porter faux témoignage, et cela le tient hors de portée de l'épée du magistrat, car il est soumis à l'autorité, qui est une louange pour celui qui fait le bien. Celui qui aime son prochain comme lui-même ne tuera pas son prochain, ne portera pas de faux témoignage contre lui, ne le volera pas, ne commettra pas d'adultère, car ce sont là les actes du malfaiteur, contre lesquels la loi est une terreur. » Rome 13, 1-10. L'apôtre dit aux Galates que la loi s'accomplit en une parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si la loi est accomplie, elle ne s'applique pas à ceux qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Vous qui êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas sous la loi. Ce que l'esprit mauvais conduit à l'ivrognerie, à l'envie, au meurtre, aux crêles et à la haine, de tels fruits tombent sous la loi, et l'autorité supérieure leur est une terreur. » Galates 5, 18-21. Ceux qui aiment leur prochain comme eux-mêmes ne se mordent pas, ne se dévorent pas et ne se consument pas les uns les autres, mais ceux qui haïssent leur prochain, et se mordent et se consument les uns les autres, n'accomplissent pas la loi, mais la transgressent. Jetez un regard sur la chrétienté, et vous pouvez voir ses fruits. La persécution est venue à cause de la croix du Christ, cette croix qui était la puissance avant le bois et la pierre, et c'est pourquoi ceux qui persécutent sont hors de l'autorité supérieure, de la croix et de la vie de Christ Jésus. L'apôtre dit à Timothée, « Nous savons que la loi est bonne si quelqu'un en use légitimement. Or, remarquez, il faut en user légitimement, et alors elle est bonne. Sachant cela, dit le grand apôtre de Christ Jésus, que la loi n'est pas faite pour le juste. Donc, pour ceux qui sont des hommes justes, et les Quakers, contre la vie et la conduite desquels on ne peut imputer aucun mal, la loi ne doit pas être appliquée si elle est administrée légitimement. Car, dit le grand apôtre, la loi a été faite pour les gens sans loi, les désobéissants, les pécheurs, les impies, les profanes, les meurtriers de père et de mère, les homicides, les fornicateurs, ceux qui se souillent avec des hommes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures. Pour cela la loi est une terreur, car ce sont des malfaiteurs, tandis que la loi est une louange pour ceux qui sont bons. Ainsi la loi n'a pas été faite ici pour empêcher les gens d'adorer Dieu, eux qui reconnaissent Dieu et le Christ, mais pour ceux qui sont mentionnés ci-dessus. Cela est conforme à la saine doctrine, et aussi conforme au bienheureux évangile de Dieu, confié à la garde des apôtres, qu'il enseigna et établit pour être observé parmi les chrétiens primitifs. Mais d'autres, s'étant détournés de sa vie, en ont dégénéré et n'ont pas observé sa saine doctrine. Et beaucoup ont tourné l'épée en arrière et appliqué les lois à des hommes justes, pour lesquels elles n'avaient pas été faites, ce qui n'a pas été conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux, ni à l'autorité supérieure, mais au diable, d'où la persécution. Quand les pharisiens tinrent conseil sur la manière de surprendre le Christ dans ses paroles, ils envoyèrent depuis leur conseil leurs disciples avec les Hérodiens, disant « Nous savons, maître, que tu es véridique et que tu ne te soucies de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis de payer le tribut à César ou non ?» Jésus, percevant leur méchanceté, dit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie du tribut. » Et ils lui apportèrent un denier. Il leur dit « De qui est cette image et cette inscription ?» Ils lui dirent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Remarquez, ceux qui vinrent tenter le Christ étaient des Juifs, de grands professants, et César était un païen. Les Juifs étaient sous le pouvoir des païens, ayant perdu la vie de ce qu'ils professaient. Et cet esprit en eux aurait voulu placer le Christ sous César. Par ses tentations, il les appelle hypocrites, eux qui professaient les Écritures mais n'en vivaient pas, comme tous les autres aujourd'hui qui se trouvent dans la même nature d'attraper au piège. Mais le Christ, qui est la sagesse de Dieu, les confondit. César doit avoir ce qui est à lui, et que sont ces choses sinon son tribut, sa taxe, et ce sur quoi se trouve son inscription. Ainsi les autres rois, dont l'image est sur leur monnaie, doivent avoir ce qui leur est dû, mais autant que les hommes, Dieu doit avoir ces choses, face à César et au conseil des grands juifs professants. Quelles sont les choses de Dieu? Là où son image et son inscription sont écrites dans le cœur, Dieu doit avoir ce qui est à lui, voyez donc chaque inscription et chaque image. Ainsi que César est son dû là où se trouve son inscription et son image, donc l'inscription est l'image de César à César, et l'écriture est l'image de Dieu à lui-même, car le saint doit avoir sa liberté et ne pas être limité, et ainsi chaque chose est à sa place. Matthieu 22, 17-21. L'apôtre dit, « Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. » Romains 14, 23, montrant que la vraie foi n'est pas péché, car c'est elle qui donne la victoire sur le péché, l'accès à Dieu, et purifie le cœur. Donc amener les gens à ce qui n'est pas de la foi, c'est les amener dans le péché, et les conduire à faire naufrage quant à la foi et à une bonne conscience, puisque le mystère de la foi se conserve dans la bonne et pure conscience. C'est pourquoi la vraie foi doit avoir sa liberté, elle qui donne la victoire, en laquelle Dieu prend plaisir, et ceux qui sont de la foi sont d'Abraham. Le grand apôtre Paul a dit aux Corinthiens, « Nous n'avons pas de domination ni de pouvoir sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car c'est par la foi que vous demeurez fermes. » Or, remarquez, vous tous qui êtes dans la chrétienté et vous appelez chrétiens, vous qui persécutez au sujet de la religion, n'avez-vous pas dégénéré loin des apôtres, puisque vous cherchez à dominer et à avoir pouvoir sur la foi des hommes, n'est-il pas évident que vous ne permettriez pas à la foi, qui est le don de Dieu, d'avoir sa liberté? Ainsi vous êtes hors de la vraie foi, le don de Dieu, dans laquelle étaient les apôtres, et vous n'êtes donc pas des auxiliaires de la joie de ceux qui sont dans la vraie foi, parce que vous-même ne tenez pas debout par elle. Pourquoi l'apôtre leur a-t-il dit de demeurer ferme dans la foi? Parce qu'il savait qu'il y en aurait pour s'opposer à leur foi. 1 Cor 16-13, 2 Cor 1-24. Les apôtres ne se concertèrent-ils pas entre eux? Car ne dit-il pas, « Nous n'avons pas de domination ni de pouvoir sur votre foi. » Ils avaient dit qu'ils avaient pouvoir sur leur foi, ils auraient pu dire qu'ils avaient pouvoir sur le don de Dieu, car la foi est le don de Dieu, et qu'ils avaient pouvoir sur le Christ, qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à son accomplissement. Mais l'apôtre dit qu'ils étaient des auxiliaires de la joie les uns des autres, dans la foi par laquelle ils devaient s'édifier mutuellement. Ainsi il est clair que Dieu doit avoir sa liberté, lui qui est l'auteur et l'achèvement de la foi, sur laquelle les hommes ne doivent pas avoir pouvoir. L'évangile que les apôtres prêchaient n'avait pas été reçu de l'homme, ni par l'homme, mais par la révélation de Jésus-Christ, qui était la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. cet évangile, puissance de Dieu, qui est liberté, doit avoir sa liberté, et les hommes doivent y avoir leur liberté. Car si les hommes se tournent contre la puissance, ils se tournent contre l'évangile et attirent sur eux la destruction par la persécution. Retour à l'index de la doctrine livre de Doctrine 4. Suite. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en tirant profit de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.